les gens, souvent, ils, comme ils manquent d'estime d'eux, tu sais, ça veut dire qu'ils diminuent leur valeur, puis ça fait qu'ils vont se contenter. T'sais, c'est le truc qui fait que les gens, des fois, ils vont pas faire d'action. T'sais, des fois, les gens, ils pensent que c'est de l'auto-sabotage. Ah, il va procrastiner, il va s'auto-saboter. Non, c'est parce qu'ils pensent pas qu'il mérite plus. Ils pensent pas qu'il peut exister autre chose pour lui. Fait que c'est pour ça qu'il fait pas d'action. Parce que si tu penses qu'il y a pas d'autre chose qui existe, tu fais rien. C'est ça, pourquoi pas moi. T'sais, dans le sens, j'ai toujours su que j'avais ce petit quelque chose-là de magique, mais je pense que tout le monde l'a. C'est ça qui est cool. T'sais, dans le sens, je suis pas en train de dire, moi, j'ai un petit quelque chose de magique, c'est pour ça que tout m'arrive. J'ai la profonde certitude que tout le monde a ce petit truc-là de magique. Je veux dire, tes deux demi-cellules ont fait qui tu es, là. T'as gagné ta première course. T'es quelqu'un parce que ces deux demi-cellules-là, parmi des millions de cellules, là, peut-être des milliards de cellules, se sont trouvées pour te créer. T'as droit à tout ce que tu veux. Tu sais, c'est sûr que c'est pourquoi pas toi.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les coulisses de la réussite d'une nouvelle femme exceptionnelle. Son attachée de presse m'a contactée et donné l'eau à la bouche en me disant « Je crois qu'elle serait une très bonne invitée puisqu'elle a osé changer de vie pour mieux s'épanouir. » En effet, après une maîtrise de biochimie, Marisol devient professeure de chimie pendant 7 ans. Suite à la naissance de son deuxième enfant, elle fait une grave dépression et découvre alors la PNL. Sa vie est alors transformée. Marisol décide de se former pour aider à son tour et finalement créer sa propre méthode. Aujourd'hui, elle est coach en génie humain et auteure d'un best-seller. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marisol Michaud.
Bonjour Marisol.
Et bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Oui, j'ai choisi, j'ai cherché, pour vrai, j'ai cherché, puis j'ai essayé plusieurs objets, puis je voulais pas choisir un objet juste parce que tu m'avais demandé ça. Je voulais vraiment choisir un objet qui me parle et qui a une représentation spéciale pour moi. Et j'ai choisi une petite statuette d'une petite fille avec les cheveux foncés, une petite robe orange, avec des bas lignés blancs et noirs. Et pour moi, ça représente ma petite fille intérieure. Donc, c'est ça. Puis elle a des crayons, elle a un petit cahier, elle dessine et tout ça. Et je ne sais pas si tu as remarqué sur l'image quand je te l'ai envoyé, mais ça, c'est des figurines qui viennent normalement pas de bouche. Et j'ai moi-même, puis je l'ai eu longtemps, pas de bouche, juste des yeux. Et à un moment donné, j'ai comme guéri dans mon processus de développement personnel quelque chose, puis j'ai eu l'élan de lui dessiner moi-même à la main une bouche. C'est la seule qui a peut-être une bouche qui existe.
Voilà, je mettrai la photo sur le blog pourquoipasmoi.co pour que tout le monde ait le plaisir de pouvoir la voir comme moi. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Donc là, bon, tout le monde a entendu que tu avais un accent.
Non.
Ou si les gens nous écoutent par chez toi, c'est moi où ils diront que j'ai un accent.
Oui, exact. Oui, mais dans le fond, j'habite au Québec, province du Canada. Alors, c'est ça. Est-ce que tu veux que je détaille plus?
Oui, et nous raconter où est-ce que tu as grandi, dans quel univers?
Parfait. J'ai grandi dans un univers de campagne. Donc, où est-ce que on se rappelle qu'il n'y avait pas d'Internet encore à ce moment-là? Là. Donc, c'est des rangs, des champs, des vaches. Je veux dire, on n'avait pas de voisins, puis ça arrivait souvent que des vaches s'évadaient là, de l'enclos en face et venaient chez nous. Là. C'est ça le contexte. Petit village, où est-ce que... c'est ça, il y a un petit village avec des rangs autour et tu peux pas vraiment aller chez tes amis à pied, sauf si tu habites dans le village. Là. Mais dès que tu sors un peu, tu dois avoir des livres de tes parents. Il y a une seule école. Tu as besoin d'avoir une voiture à 16 ans parce que tu peux pas aller au cégep. Là. Tu sais, dans le sens, c'est ça.
Et quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves?
Mes rêves, c'est... Pour vrai, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours été passionnée de l'être humain, dans le sens de l'être humain, de la vie, dans le sens que, tu sais, j'avais 8 ans, puis je demandais des microscopes puis des dictionnaires à Noël. Parce que encore aujourd'hui, je vais utiliser un super mot, mais je suis flabbergastée, tu sais, comme j'en reviens pas à quel point 2 demi-cellules forment un être humain. C'est ça, là. C'est 2 demi-cellules, ça fait quelqu'un. Moi, c'est incroyable, avec une conscience, avec, tu sais, qui fonctionne puis qu'on n'a rien à faire. Tu sais, la majorité du temps, en tout cas. Donc, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de curiosité. Je posais beaucoup de questions et j'aimais beaucoup, beaucoup la vie, l'être humain, les gens. Tu sais, j'étais là, je me rappelle, j'ai des souvenirs vraiment précis de quand j'ai genre 7-8 ans, puis je suis en train de me balancer et de juste comme trouver ça beau, la vie, là. J'étais vraiment comme, tu sais, il y avait comme vraiment quelque chose, je sais pas, par rapport à tout ce que ils se posent pas vraiment ces questions-là, là, tu sais, dans le sens, ils ont d'autres passions, mais c'est ça.
Et quand t'es petite, tu te rêves à quoi plus tard?
Je rêvais de... J'ai toujours aimé l'école. J'étais vraiment celle qui aimait étudier, qui aimait ça quand il y avait beaucoup de devoirs, toutes ces choses-là. Tu sais, celle qui en demandait plus puis que les autres n'étaient pas contents. Et même que l'été, j'ai déjà parti ma propre école où est-ce que j'avais accumulé des livres, que je les avais étiquetés, j'avais une petite bibliothèque. Fait que là, tu sais, tous les voisins, là, parce qu'à un moment donné, j'habitais plus au village, là, donc j'avais des voisins. Et... il venait chez nous l'été jouer à l'école. Donc, quand j'ai fini ma 6e année, là, nous, le primaire, dans mon album de finissant, je l'ai encore, puis ça disait, mon ami m'avait dit, je te souhaite de réaliser ton rêve d'être scientifique ou professeur. Pis c'est très drôle parce que j'ai réalisé ça. T'sais, c'est ça que j'ai fait après. Je suis devenue scientifique et j'ai enseigné et j'enseigne encore aujourd'hui. Donc, ouais, beaucoup l'école.
Et du coup, ça s'est passé comment pour toi, le choix des études?
Ça n'a pas été quand même évident, dans le sens que j'avais beaucoup le... Tu sais, chez nous, ma mère, était monoparentale avec 3 enfants. C'était vraiment important pour elle qu'on trouve des emplois payants, tu sais, qu'on ne vive pas ce qu'elle, elle avait vécu. Donc, des difficultés financières et tout ça. Donc, j'étais vraiment... Puis on est, tu sais, je ne sais pas vous, mais nous, on est poussé. Tu sais, si t'es bon à l'école... On te dit, ben inscris-toi en physique, chimie, tu sais, c'est automatique pratiquement. Là, on te fait pas questionner tant que ça sur qui tu es, sur ce que tu aimerais ou quoi que ce soit. Tu sais, on te dit, ouvre toutes tes portes, puis prends toutes les options possibles. Donc, j'ai fait beaucoup de cégep. Tu sais, ici, normalement, c'est 2 ans, un cégep préuniversitaire. J'en ai fait 4 ans.
C'est quoi cégep? C'est une prépa, comme une sorte de préparation, de prépa?
Ouais, ben tu peux avoir le cégep 3 ans qui est technique, qui te donne un diplôme, puis d'accord, tu fais ton métier. Okay. Ou tu as le cégep 2 ans préuniversitaire, donc pour aller faire un bac après ça à l'université. Et j'ai fait sciences infirmières, j'ai fait beaucoup beaucoup de cours, de toutes les cours de biologie qui étaient offerts en option, je les ai toutes fait. Donc, puis j'avais la difficulté en physique. Donc, je me suis beaucoup remis en question. J'ai pensé à abandonner. À un moment donné, j'ai pensé à aller faire nous on appelle ça un DEP, là, un petit cours pour vendre des autos, là. Tu sais, dans le sens pour être vendeuse de chars, qu'on en dirait ici. Tu sais, à quel point c'est loin quand même de ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ça. Je me suis cherchée et j'étais allée à l'université en pensant que j'ai fait un bac puis finalement une maîtrise en biochimie. Puis j'ai pensé aller faire des autopsies. Je pensais aller en pathologie, faire des autopsies. Tu sais, j'étais curieuse, je voulais comprendre. Tu sais, mais là, à un moment donné, il fallait aller en médecine pour ça. Et j'ai essayé d'aller en médecine plusieurs fois, puis ça fonctionnait pas. Donc, on m'a dit, ben continue en recherche, puis fais un doctorat aussi. Tu sais, puis tu vas pouvoir faire des autopsies ou des analyses. Mais l'affaire, c'est que ça, tu faisais pas d'autopsie avec ce chemin-là. C'est que tu analysais des frottis. Tu sais, mettons quelqu'un qui a une masse au niveau du sein, ben va avoir, tu sais, mais là toute la journée tu fais que regarder ça, là, tu sais, c'était pas ça que je voulais faire. Donc après ma maîtrise, j'ai aussi fait un cours pour enseigner niveau supérieur et j'ai été enseigner la chimie finalement. Mais
à qui du coup?
Hein?
À qui quand tu enseignais la chimie?
Au cégep. Donc aux autres qui s'en allaient préuniversitaires dans le fond. Pour aller à l'université, j'enseignais la chimie pendant 7 ans. Et c'est ça, c'était pas... moi, c'est toujours été la biologie, l'être humain, tu sais, avec la biochimie, oui, parce que c'est la chimie dans le corps humain. Mais la chimie, tu sais, c'était pas tant que ça. Mais avec les cours que j'avais faits, ils m'engageaient pas comme prof en biologie. Je pouvais pas, j'avais pas les prérequis pour ça. Donc, puis tandis qu'en chimie, il manquait tellement de profs que, tu sais, les autres étaient moins difficiles, mettons, sur les critères.
Et vouloir faire des autopsies, c'est quand même quelque chose de costaud.
Ben oui, ouais. Ben,
Tout le monde n'est pas capable de... Enfin, moi, je sais que j'en serais incapable.
Je ne veux dire pas pour le côté technique, mais pour le côté...
Recherche, ouais.
Ouais, exact. Ben tu vois, c'est intéressant parce que quand tu as dit ça, pour moi, ça ne l'est pas. Fait que ça veut dire que c'est quelque chose que... Tu sais, des fois, quand on a ça naturel ou qu'on le sait qu'on est dans notre génie, ouais. Des fois, là, on se fait dire ça. « Oh mon Dieu, comment t'as fait? » Tu sais, mettons, pour mon livre, vous en faites la main. Mm-hmm. Puis si je suis dans mon génie, pour vrai, ça ne m'a pas demandé vraiment d'effort.
Ouais.
Donc, tu sais, tu me dis ça, puis pour moi, c'était comme, ben non, ça faisait juste du sens avec tout qui je suis, là, tu sais, me poser des questions, être curieuse, comprendre encore plus le corps humain, l'être humain par cœur, tu sais.
Carrément. C'est marrant parce que je te disais avant qu'on branche le micro, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier ?» Et au début du livre, en fait, j'ai interviewé trois personnes, dont une personne qui était attachée de presse dans l'univers de la mode et la déco, enfin dans la décoration, et elle a fait un bilan de compétences. Et ce qui est ressorti, c'est que elle n'avait pas de sensibilité. C'est pas qu'elle n'était pas empathique, c'est que justement elle n'avait pas la sensibilité de, en effet, voir un mort, voir quelqu'un.
Oui.
Enfin voilà, c'était pas du tout quelque chose qui l'atteignait. Et aujourd'hui, elle est dans la police judiciaire. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est la sensible. Enfin voilà, c'est la sensiblerie. Le fait de pas en avoir, c'est un atout dans certains métiers. Oui. Et
exact. Donc, tu sais, comme elle, si tu lui demandes, tu sais, est-ce que c'était difficile ben pour
c'est ça,
elle,
non, c'est un long sujet. Voilà, comme des gens qui travaillent dans des pompes funèbres, il n'y a pas de...
Ouais, j'étais un peu la... Tension aux oreilles sensibles, mais j'étais un peu la déléguée de... Parce que, tu sais, quand on est en recherche, on fait toutes nos recherches sur des animaux, là. Donc, tu sais, que ce soit des rats, des souris, des cochons, des chats, je veux dire, il n'y a rien que, tu sais, j'ai pas disséqué, là. Tu sais, c'est comme... Puis j'étais comme la déléguée de l'équipe, là. Tu sais, souvent, c'est ça, on se mettait en équipe avec un qui était comme plus à l'aise de faire ça. Puis, on a même des recherches dans le fond, on injecte des choses à des rats, puis après ça, t'es ardor, puis après ça, t'es guillotine, parce que t'as besoin d'aller chercher les trucs dans le cerveau avant que ce soit désagrégé, là. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est pas tout le monde non plus qui était capable de faire ça, là.
Ouais.
Ouais,
carrément. On a tous, comme tu dis, on a tous notre zone de génie, le tout et notre singularité. Le tout, c'est d'en prendre conscience et pouvoir apporter ça au monde. C'est sûr. Mm-hmm. Et donc, du coup, t'es professeur là. Comment ça se passe cette première vie professionnelle?
Ben pendant que j'étais prof de chimie, c'était intéressant, mais comme je te disais, j'étais pas tant dans ma zone de ce que j'aimais faire. J'ai fait une dépression majeure. Je t'en parlais un peu avant l'enregistrement, mais j'ai fait une dépression majeure il y a 10 ans environ. Et ça m'a vraiment remis en question tout ce que j'avais fait. Même si, tu sais, on dirait que j'ai comme mon parcours de passionné de l'être humain ou de la vie déjà, tu sais, comme j'ai quand même fait plein de choix qui étaient alignés avec qui je suis, il y avait quelque chose de vraiment pas aligné, et puis ça a vraiment remis en question ma de travailler comme professeur et tout ça. Donc aujourd'hui, j'enseigne, mais j'enseigne ma propre approche de coaching, là, tu sais, fait que j'enseigne plus la chimie aujourd'hui, c'est moi qui crée tout, là, tu sais, fait que je forme mes propres coachs, donc
Ben, tu vas nous en parler après.
On est complètement ailleurs, là. Exactement, on est complètement ailleurs.
Mmh. Et quand tu dis donc t'as fait une dépression majeure, comment ça s'est manifesté?
C'est vraiment... c'est fou comment, à quel point, je sais pas si... tantôt, tu me parlais de burn-out et tout ça, je sais pas si t'as déjà fait une dépression.
Oui, moi, j'ai fait un burn-out.
Ouais. Tu sais, c'est fou à quel point tu te rends pas compte à quel point t'es allé loin là-dedans. Mmh. Tu sais, c'est pas juste comme un petit truc que tu fais « Ah, je pense que je suis en dépression aujourd'hui. » Tu sais, ça t'arrive là, puis ça te rentre dedans, puis t'es comme « Oh mon Dieu, ça fait combien d'années des fois tu dis ça? Ça fait combien d'années je suis dans ce... » Moi, je vois ça comme un trou, là. C'est comme j'avais creusé sans m'en rendre compte mon propre trou, puis je suis pris là-dedans, puis à un moment donné, tu sais, comme tu te réveilles, puis t'es comme « Oh mon Dieu, ça fait combien de temps je suis là-dedans? Là, je m'en rends pas compte, là, tu sais. » Donc, j'étais vraiment très, j'étais vraiment fatiguée. J'étais vraiment, je venais d'accoucher de ma deuxième, fille. Puis j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Je me reconnaissais plus. J'étais très, très négative, là. Des gens autour de moi me disaient, oh, comme, t'es trop négative. Tu sais, quasiment, ils me disaient, tu sais, ah, t'es trop négative. Tu me rappelleras quand t'iras mieux. Mais tu sais, les gens, ils étaient pas non plus équipés pour me dire, pour me diagnostiquer ma dépression, là. Fait qu'ils faisaient juste me trouver négative. Puis je me rappelle, là, un moment, je vais peut-être pleurer, je vais le compter, mais un moment où ce que, tu sais, j'avais eu ma première fille, puis quand j'avais accouché de ma première fille, c'était le plus beau jour de ma vie, là, tu sais, dans le sens, tu sais, pour vrai, c'était comme le monde compte dans des rêves, là, tu sais, dans le sens, j'ai accouché de ma première fille, puis c'est comme, oh mon Dieu, elle était exactement comme je l'avais imaginé, là, elle était belle, elle était incroyable, elle était en santé, elle était là, vraiment, tu sais. Puis quand j'ai accouché de ma deuxième, là, j'en voulais pas de cet enfant. Tu sais, j'en voulais, là, dans le sens qu'elle était désirée. Mais quand elle est sortie, j'ai comme fait, j'en veux pas, je veux juste la première. Genre, tu sais, c'est comme quasiment gardez-la, là. Tu sais, comme je la reconnais pas, c'est plus comme mon enfant. J'étais complètement l'ombre de moi-même, là. Tu sais, puis je me rappelle, tu sais, quand ils disent les trucs de, ah, quand ton bébé pleure, tu le déposes pour aller respirer dehors, pour pas, tu sais, comme qu'il arrive quelque chose. Je la prenais, là, puis je shakais, là, puis là, genre, j'étais à bout, là, puis là, je la déposais, là, puis je m'en allais, là, puis je hurlais, je me frappais, là. Pour vrai, j'étais, là, vraiment au creux du creux, là, tu sais, c'était fou.
Et comment tu t'es fait accompagner, du coup, pour t'en sortir? Ouais.
En fait, c'est ma plus vieille qui s'est mise à s'arracher les cheveux de la tête. Donc, j'ai commencé à consulter pour ça. Tu sais, dans le sens, j'ai pas fait, hey, je pense que aujourd'hui, j'y reconnais les signes. Si jamais je vois un peu moins bien, tout ça, je le sais, là, tu sais. Mais sur le moment, j'ai pas fait, hey, je pense que je suis en dépression aujourd'hui, je vais aller consulter. J'ai zéro fait ça, là, tu sais. Donc, ma plus vieille, elle s'est commencée à s'arracher tous les cheveux de la tête. Et puis, j'ai posé des questions pour ça.
Elle avait quel âge?
Elle avait un an et demi, peut-être. Tu sais, 18 mois, 24 mois max. Elle s'arrachait les cheveux, puis je posais des questions, puis je trouvais rien à part lui mettre des mitaines, tu sais, aux mains, tu sais, c'est comme, c'est ça que je trouvais, là, tu sais, tu peux pas diagnostiquer ton enfant de 18 mois, puis faire prendre la médication, là, un moment donné, contre l'anxiété, il y a une limite. Puis moi, je me questionnais, qu'est-ce qu'elle peut vivre de si stressant que ça, là, tu sais, parce que c'est des signes d'anxiété, là. Et j'ai quelqu'un qui m'a parlé de coaching PNL, la programmation neurolinguistique. Puis moi, je suis une scientifique, là. Pour vrai, là, honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, tu sais, c'est comme, c'est quoi l'arnaque? Elle fait ça dans son sous-sol? C'est-tu vraiment un cours? Genre, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais? Puis je suis allée quand même pour ma fille, mais ma fille, évidemment, n'était pas là. Je suis allée avec le père de ma fille. Puis après une rencontre, bien évidemment, elle m'a pas diagnostiqué, là, elle n'a pas le droit, là. Tu sais, c'est une coach, mais elle m'a dit, tu sais, elle dit, va dans n'importe quel bureau de médecin pleurer comme ça, là. Puis tout le monde va te dire que t'es en dépression majeure, là. Tu sais, c'était comme, je pleurais tout le long en allant au rendez-vous, je pleurais tout le rendez-vous, je pleurais tout le long en revenant chez nous, là. Je veux dire, j'étais là, vous savez, j'ai donné les indications de ce que je faisais, là. C'est fou. Puis, mais ma fille, s'est plus jamais arraché les cheveux. Après une rencontre, moi, j'étais allée consulter une fois, elle plus jamais à s'arracher les cheveux. Et là, j'ai fait, attends, là, la curiosité est revenue, tu sais, puis j'ai fait comme, attends un peu, qu'est-ce qui fait que, parce que moi, je consulte, elle va mieux. Puis là, j'ai tout fait la formation de PNL, mais pour m'en sortir, j'ai été comme, puis je veux faire attention avec ça, je suis pas en train de dire que, tu sais, la médication ou pas, c'est, tu sais, je suis pour ou contre, ou que, tu sais, ça, c'est mon processus à moi, tu sais, chacun son processus unique, puis, mais moi, je suis allée peut-être une douzaine de fois, tu sais, comme en rencontre coaching, là, mettons 12 semaines, une fois par semaine. Puis après ça, j'ai fait toute la formation. Mais tu sais, quand j'ai commencé la formation, j'allais déjà mieux. Mais pour vrai, là, c'était comme si je me réveillais dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis réveillée, puis j'ai fait comme, aïe, comment je me suis rendue jusqu'ici? C'était qui, tu sais, quasiment, c'était qui ces enfants-là, ce chum, ce mari-là, puis tout ça, là. Je veux dire, comme si c'est quelqu'un d'autre qui avait vécu ma vie sur le pilote automatique à prendre des décisions sans que je m'en rende compte.
Ouais.
C'est fou.
Ouais, c'est fou. Et quand tu dis que du coup, tu as suivi la formation, donc là, oui. T'as été suivie en PNL et donc oui. À un moment, tu t'es dit, en fait, je trouve ça génial, j'aimerais moi aussi me former, c'est ça?
Vraiment. Ah oui, vraiment, parce que moi, j'ai fait, attends, parce que moi, puis là, comme ton histoire, tu sais, j'ai voulu faire une différence dans la vie des femmes qui, tu sais, qui donnent naissance ou peu importe quand, mais je voulais éviter à un plus grand nombre possible de femmes de retrouver dans cette situation-là que moi j'avais vécue, tu sais, qui était vraiment atroce. Donc, quand j'ai vu à quel point ça avait une incidence sur ma vie. Puis pour vrai, l'arrivée de la PNL dans ma vie, ça, c'est venu faire du sens avec l'être humain que j'avais envie d'être. C'est venu faire du sens avec la femme que j'avais envie d'être, la mère que j'avais envie d'être, l'amoureuse que j'avais envie d'être. T'sais, c'est venu faire du sens avec tout. Puis j'ai fait, OK, c'est ça, là. Ça, c'était mon appel, là. T'sais, j'ai comme vraiment... Donc, je suis tombée là-dedans comme Obélix dans Potion Magique, là. J'ai fait toute la formation. J'ai démissionné 2 ans plus tard, en 2016, j'ai démissionné de mon travail au cégep comme prof de chimie, puis j'ai parti ma carrière.
Alors, juste avant qu'on en parle, est-ce que tu pourrais dire, pour ceux qui connaissent pas la PNL, qu'est-ce que c'est?
Oui. La PNL, dans le fond, la programmation neurolinguistique, c'est une approche de coaching qui a été développée des années 70-80 par John Grinder puis Richard Bandler. Et c'est vraiment une approche très axée sur le comportement et le mindset de l'humain. Donc, c'est une approche pro de la communication. Ça explique vraiment puis comment fonctionne un être humain. Pourquoi il fait tel comportement? D'où vient cette blessure-là? Qu'est-ce qui fait que telle personne a cet état-là, ce mindset-là et pas celui-là? Les croyances, tout ce qui englobe dans le fond finalement, qui influence ce que tu fais au quotidien, là.
Et donc là, quand tu dis à ton entourage, notamment à ton mari, que tu veux te former, donc tu as tes 2 filles qui sont toutes petites, comment ils réagissent?
Hey, c'est une bonne question. J'essaie de rappeler comment il a réagi. Pour vrai, il était tout le temps... on est séparés là, aujourd'hui. Mais pour vrai, sur le moment, il était tout le temps en train de m'encourager. Tu sais, dans le sens, il était vraiment... cette personne... Encore aujourd'hui, on a vraiment de bonnes relations de famille recomposée. Puis, tu sais, il me dit encore comment il est fier de moi puis comment il me trouve extraordinaire puis ce que je fais. Donc... j'ai été quand même chanceuse. Je dis chanceuse, mais j'aime pas vraiment ce mot-là parce que je l'ai quand même choisi, là, cette personne-là, dans ma vie. Il m'a toujours encouragée. Puis pour lui, c'était OK là, que je démissionne de mon travail, qui était quand même très payant ici au Québec. Là, c'est un bon emploi. Puis que je parte à mon compte là, par rapport à ça. C'est sûr que je pense que qu'est-ce qui est le plus difficile, là, souvent, ce que j'ai vu aussi chez mes clientes, là, pour les conjoints-conjointes, c'est que justement, moi, là, je change, puis je travaille sur moi. Puis souvent, l'autre se dit, elle va-tu encore vouloir de moi? Tu sais, moi, je vais-tu être encore la personne, tu sais, qu'elle va aimer? Parce que là, elle m'a choisi avant, là, 13 ans. Là, 13 ans plus tard, puis là, elle commence à faire plein de prises de conscience, à travailler sur elle, tout ça. Je vais-tu être encore la personne? Puis comme de fait, on s'est séparés, là, finalement. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'était ce qui le freinait le plus, tu sais, que ça le mettait vraiment en insécurité par rapport à ça. Mais sinon...
Mais si c'est pas indiscret, du coup, c'est toi ou c'est lui qui est parti?
C'est moi. Ouais, c'est moi. Donc, moi, j'ai... Tu sais, ce que j'ai observé aussi, tu sais, c'est que la majorité du temps, les gens vont être en couple par rapport à des blessures. C'est dans le sens qu'on va faire un choix de telle personne, de faire partie de notre vie à cause de nos blessures, nos conditionnements, nos croyances, tout ça. Fait que ça veut pas dire que parce que tu travailles sur toi que tu vas te séparer, tu sais. Ça,
non, heureusement, d'ailleurs.
Exact. Ça veut pas dire ça. Mais ça arrive aussi que quand t'as choisi un conjoint en fonction de compenser des blessures ou pour... Tu sais, moi, je l'avais carrément choisi avec ma petite fille intérieure, tu sais, puis lui, il était un pourvoyeur, puis ça fitait, là, tu sais. Mais là, tout d'un coup, je travaille sur moi, je prends soin de mes blessures, de mon enfant intérieur, je m'émancipe comme femme et tout ça. Et j'y ai proposé aussi que je voulais qu'on arrime ça. Tu sais, je voulais qu'on aille en coaching ensemble 13 ans plus tard, tu sais, parce qu'on était comme, on avait quand même changé là, dans ces années-là. Puis lui, ça, il voulait pas. Tu sais, c'est ça, à ce moment-là.
Ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai été mariée et donc j'ai fait mon burn-out il y a 4 ans maintenant. Et cet été, mon mari m'a quittée de façon très élégante, on va dire, avec un grand, grand guillemet. Et quand il m'a quittée, il m'a dit en fait, je suis convaincue que tu es devenue la meilleure personne qui pour toi, mais cette personne ne me convient plus. Mm-hmm. Et bon, bah, sur le coup, tu fais waouh, c'est quand même, c'est hyper costaud. Après, c'est honnête. Enfin, sur ce coup-là, il a été honnête. Mais ouais, c'est un truc où tu te dis oui, en fait, finalement, quand tu deviens toi, bah voilà, tu mets des limites, tu mets des. Et donc, du coup, bah, l'autre, voilà, en effet, ça arrive que ça suive pas.
Oui.
c'est difficile à encaisser sur le moment, surtout quand t'as les enfants au milieu. Mais finalement, voilà, c'est se dire que finalement, comme dit, on en parlait en micro, j'ai interviewé Christine Michaud, donc qui est québécoise aussi. Et Christine, elle appelle ça, alors j'en suis pas encore là aujourd'hui, hein, mais des cadeaux mal emballés de la vie. C'est de se dire que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau qui se cache. Et bon, je vais divorcer, je le verrai après.
Ben, pour vrai, ça a pris... Tu sais, je dis que maintenant, on a une belle relation. Les deux premières années, c'était pas le cas, là. Tu sais, lui, il a trouvé ça très difficile. Lui, pour lui, on était ensemble pour la vie, là. Jamais, jamais en 13 ans, il avait remis en question notre couple. Jamais. Lui, là, il nous voyait vieillir ensemble sur le balcon. Tu sais, c'était... Fait que quand... Je lui ai dit que j'étais plus certaine de mes sentiments puis que je voulais qu'on travaille sur nous deux. Lui, il m'a dit que c'était comme si j'y avais planté un couteau dans le dos, là, tu sais, dans le sens. Puis il y en a eu pour longtemps, là. Pour vrai, là, les deux premières années, là, il m'haïssait puis il disait des choses comme je regrette d'avoir eu des enfants avec toi. Je sais que c'était pas ça, mais tu sais, comme dans le sens qui, ça y réactivait tellement comme qu'on est obligé de, tu sais, t'imagines, t'es en peine d'amour. Puis tu te fais laisser, mais tu es obligé de continuer à dealer avec cette personne-là parce que
c'est... Ah bah c'est ça, hein, tu dis... Ah bah c'est ça, quand tu as des enfants, c'est toute ta vie, toute ta vie. Et puis oui, enfin moi, tu vois, je me suis mariée il y a... Bon, ça faisait 17 ans qu'on était ensemble et ça fait... On s'est mariés il y a 4 ans. Mm-hmm. En fait, ouais, tu dis finalement, moi, je m'imaginais en effet vieillir avec lui. Donc, c'est tout un modèle de, mes parents, ils sont toujours ensemble. Enfin, c'est un modèle de vie qui est brisé. Après, moi, je vois, enfin, j'ai une ancienne copine qui, il lui a fallu 6 ans pour arriver à se reconstruire parce que son modèle était brisé. Il y a un moment, il faut savoir se dire, bah, ok, de toute façon, c'est brisé. Il veut plus de toi. T'avances, en fait. Enfin, c'est.
Exact. Oh oui, exactement.
Alors après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais...
Là, aujourd'hui, il est en couple, puis il va se remarier. Là. Fait que,
ah, génial! Cas,
puis il m'a dit... Tu sais, ça a pris comme 2 ans, puis à un moment donné, il m'a dit, OK, là, j'ai compris. Tu sais, il dit, je voyais pas à ce moment-là. Lui, il pensait qu'on était heureux, mais on n'était pas heureux. Tu sais, comme on n'était vraiment pas bien. Mais c'est juste que c'est sûr que si c'est moi qui ai fait la prise de conscience, ben moi, je suis plus à je suis à un autre, tu sais, premièrement, on a chacun notre processus différent. Puis en plus, moi, je suis comme avancée dans mon processus de la séparation parce que c'est moi qui l'initie, hein. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai quand même, tu sais, quand tu annonces à l'autre, ben, veux pas, t'as quand même pensé à ça. Si l'autre a jamais pensé à ça, on n'est pas à la même place. Puis pour vrai, ça a pris à peu près 2 ans. Puis il m'a dit, OK, merci. Genre, ça a pas dû être évident comme décision, mais je me rends compte que t'as pris la meilleure décision. Puis là, on est en train de vivre un gros projet de famille commun. On est en train de déménager toute notre famille à 5 heures de route.
Wow.
Dans Charlevoix. Oui, puis c'est eux qui me l'ont demandé, lui puis sa conjointe, qui m'ont demandé si j'avais le goût de déménager parce qu'on fait la garde partagée des enfants. Et j'ai dit oui. Et là, on s'est les deux acheté des nouvelles maisons là-bas. On est tous en train de déménager ça, puis on s'entraide. Puis tu sais, moi, je les aide avec les enfants. Eux, ils m'aident. Tu sais, ils viennent m'aider chez moi et tout ça. Donc, on est vraiment rendu ailleurs. Puis c'est ça.
Ouais, t'as vraiment, quand tu parlais de cette famille, cette notion de famille recomposée, c'est vraiment, en effet, vous êtes une famille, une vraie famille au niveau global, quoi. C'est chouette.
Exact. Ouais. Exact. Puis tu sais, je sais que c'est pas, en tout cas ici, c'est pas la norme, là. Tu sais, c'est pas la majorité des familles qui se séparent puis qui sont en famille recomposée puis qui s'entendent tout le temps bien. Mais je pense que, tu sais, ça peut exister puis je suis contente. Tu sais, comme même la fille de sa conjointe, elle vient chez ma mère à moi à Noël, là. Tu sais, je veux dire, on est vraiment, on se parle vraiment beaucoup et tout ça. Donc, je pense que, tu sais, pour moi, c'est ça. C'est que, tu sais, comme tu disais tantôt, c'est brisé. Mais, tu sais, le fameux « j'ai brisé ma famille », moi, je pense que si deux parents restent ensemble pour pas briser la famille, mais qu'ils sont malheureux...
Ah non, mais il faut pas, bien sûr. J'avais vu une citation sur Instagram, peut-être 15 jours après, 15 jours avant qu'il me quitte. Et il y avait écrit « il vit cure heureux, mais séparément ». Et ça m'a, ça, tu vois, j'avais eu un tilt en lisant ce truc parce que bon, je sentais bien qu'il était un peu bizarre quand même. Et ce truc-là, hein, clairement, enfin, tu vois, d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai dit aux enfants, hein, quand on a annoncé qu'on se séparait, on leur a dit, vous savez, voilà, papa, il est plus amoureux de maman, mais maman, elle reste pas mariée avec un homme qui l'aime pas, en fait. C'est pas, voilà, la vie est trop courte. Enfin, voilà, t'as fait une grosse dépression.
Vraiment.
Moi, j'ai fait un burn-out. La vie, elle est trop courte pour rester avec quelqu'un avec qui t'es pas heureux. Et évidemment que c'est difficile, hein. Il y a des moments qui sont difficiles pour les enfants. Il y a des moments qui sont difficiles pour, en tant que
Je vais muter 2 secondes, j'ai quelque chose à dire.
Un petit éternuement. Mais oui, ça c'est, enfin voilà, c'est vraiment apprendre à chacun à se reconstruire. Mais bon, après il y a aussi les contextes de séparation qui font que ça aide ou pas à avancer.
Oui, exactement, parce que tu peux pas non plus contrôler l'autre personne. Tu as du pouvoir sur toi-même. Mais à date, moi ce que j'ai vu, c'est que c'est... voyons, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Là, cette Pourtant, tu m'as averti qu'on allait parler beaucoup, je suis habituée de parler quand même. Mais ouais, je sais pas, ça passe pas. Il y a comme un truc qui...
Il y a peut-être un truc qui passe pas encore.
Ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est que tu peux pas avoir du pouvoir sur l'autre, mais tu as du pouvoir sur toi. Puis moi, ce qui a vraiment le plus aidé ma relation avec mon ex, c'est moi. Tu sais, c'est le changement de ma perception.
Bien sûr.
Fait que même si lui, il changeait pas, si moi, j'arrêtais de le voir comme, mettons, le méchant ou le ci ou le ça... Ça changeait tout, tu sais. Puis je l'ai pas fait avec des attentes, tu sais. Je travaillais pas sur moi en me disant, OK, là, je vais travailler sur moi parce que je veux une belle relation avec mon ex. Je le faisais en fonction de l'être humain que moi, j'avais envie d'être. Tu sais, j'ai-tu envie d'être cette personne-là qui est toujours en train de parler contre lui, même s'il fait peu importe, tu sais. Je veux dire, moi, je pense vraiment que tout le monde est extraordinaire puis qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec qui on est, tu sais. Fait que j'avais-tu vraiment envie... comme d'être celle qui est comme, tu sais, qui ronge son os, là, tu sais, qui est comme toujours amère. Puis en plus, ben, c'est moi que ça met dans un état arc, là, tu sais. Je sais pas si, tu sais, si vous pouvez comparer, là, mais, tu sais, quand t'es, mettons, la joie versus quand t'as de la peine pendant plusieurs années ou t'es de la colère pendant plusieurs années, c'est toi qui vis cette
émotion-là. Ouais, bien là, sûr. T'sais. C'est toi, en fait, de toute façon, quand tu ne pardonnes pas, c'est à toi que tu fais, enfin, finalement, ce qu'on disait l'autre jour avec quelqu'un, c'est que, le pardon est égoïste, parce qu'en fait, quand tu pardonnes, ça te permet d'aller mieux et d'avancer.
Exactement. Ben oui. Puis parce que c'est toi qui gardes ça, tu sais. Puis c'est pas vrai que ça, c'est ça. Fait que je l'ai pas fait avec des attentes. Puis j'ai fait avec la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir, puis c'est de moi, de me sentir mieux avec moi-même. Ouais. Parce que oui, comme tout le monde, là, j'ai eu la culpabilité de briser ma famille, parce que c'est vraiment encore ça qui est propagé là, dans la société ici, là. Tu sais que quand tu te sépares, tu brises ta famille. Puis, tu sais, le jugement des autres et tout ça. Et le plus gros morceau, c'est vraiment de pas voir mes enfants tous les jours, là. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Mes enfants, quand on s'est séparés, là, il y avait 2 ans, 4 ans puis 5 ans, là. Fait que, tu sais, ma fille de 2 ans peut pas me FaceTimer, là. Tu sais, je sais pas. Tu sais, où la technologie aujourd'hui existe, mais elle était trop jeune pour ça. Fait que je devais passer par le père, tout ça. Puis, c'était moi qui étais maman à la maison. J'étais en train de partir de mon entreprise. Fait que c'est moi qui les avais tout le temps avec moi. Fait que, tu sais, de passer de ça, puis en même temps, tu veux que le père soit présent dans la vie de tes enfants, en plus, surtout si c'est un bon père, puis qu'il veut être là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile de pas les voir, là. Ça m'a pris quand même un an ou deux, là, comme faut, là, à être bien. Puis là, je me disais tout le temps, tu t'es pas séparée pour être malheureuse puis pleurer dans ton bain chez vous pendant que tes enfants sont pas là, tu sais. Fait que, let's go, là, tu sais. C'est ça. Mais ça, c'est comme...
Ça, enfin, j'en parlais avec quelqu'un à midi. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est ça le plus difficile. C'est en effet de se dire que tes enfants, tu les vois qu'une semaine sur deux, que le temps que tu as avec eux, tu te dis, bah, il faut que ça soit du bon temps parce qu'en fait, il est compté. Et ça, c'est bon. Moi, c'est encore chaud, hein. Donc, du coup, faut arriver à expérimenter le truc. Et puis même, tu vois, c'est, ma fille, je l'ai croisée hier, quand elle était à son cours de natation parce que j'étais là à côté d'elle. Elle était trop contente de me voir. Après, elle a pas voulu me laisser partir. Donc, limite, elle était en pleurs. Donc, t'as ton petit cœur de maman. Tu te dis, mais c'est quoi la bonne solution? Est-ce que finalement, est-ce que c'était bien d'y aller? Parce que finalement, ça nous a fait de la peine là, toutes les deux. Enfin, c'est d'arriver, ouais, vraiment à trouver sa place dans tout ça. Mais bon, c'est,
Puis les enfants sont tellement résilients, là. Tu sais, un enfant, ça peut vivre, tu sais, si on prend des exemples d'enfants qui vivent de la violence ou tout ça, puis continuent d'aimer leurs parents inconditionnellement, tu sais, des enfants, c'est tellement résilient que moi, je pense encore que si le parent va bien, tu sais, l'enfant, il va trouver, là, tu sais, il va trouver.
Si tu vas bien, ils vont bien, c'est sûr.
Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, je trouve ça plus facile parce que, tu sais, mes enfants, ils ont 8, 11, 13. Et c'est plus facile parce qu'on peut se parler tous les jours. Ouais. Tu sais, mes enfants, là, tu sais, comme elle va chez le dentiste, elle m'appelle en revenant pour me montrer sa dent. Puis, tu sais, je veux dire, je manque presque plus rien. Tu sais, dans le sens que c'est presque si j'étais là. Puis, tu sais, c'est difficile parce que tu as dit, tu sais, quand ils sont là, ben, on essaie que ce soit des moments de qualité, tout ça. Sauf que la réalité, c'est que, tu sais, il y a encore les devoirs, il y a encore les leçons, Fait que là, tu essaies que. Fait que là, tu essaies d'être plus patient, puis ci, puis ça, mais t'es quand même dans la réalité du quotidien. Là, fait que, ouais, c'est vraiment l'adaptation de tout ça. Moi, je me suis dit, si j'ai pris la décision de partir, malgré ça, t'sais, malgré le fait que j'allais pas voir mes enfants tout le temps, je vais réussir ma séparation, tu comprends? C'était mon gros moteur, parce que je me disais, c'est pas vrai que je vais me séparer, puis je vais être encore plus malheureuse, tu sais, je veux dire... Puis pas voir mes enfants en plus. Ouais. Ça marche pas.
C'est sûr. Donc, du coup, tu te formes à la PNL. Est-ce qu'au moment où tu te formes, tu as l'intention, du coup, d'exercer en tant que coach ou tu te formes juste parce que tu es quelqu'un qui est très curieuse?
C'est une bonne question parce que je pense qu'au début, c'était vraiment parce que j'étais curieuse puis que je voulais tout savoir. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'enseignement de la chimie, c'était pas pour moi. Et là, j'ai voulu faire une différence, comme je disais tantôt, tu sais, à éviter à un maximum de femmes de se retrouver dans le trou que j'étais, là, tu sais, de vivre ce genre de truc-là.
Et donc, du coup, au moment où tu t'es dit, allez, je me lance, comment t'as fait concrètement?
Des fois, quand je pense à ça, c'est drôle. Pour moi, tu me poses plein de questions que personne ne me pose jamais en entrevue. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai tout fait. Tu sais, dans le sens, je veux dire, j'ai commencé par aller dans les centres de maternité où ce qui donnait des cours prénataux pour offrir des ateliers pour les jeunes mamans. Fait que j'ai commencé, j'étais à un moment donné dans 3 centres un peu partout, puis je donnais des forfaits d'ateliers, puis là, sur l'estime de soi, sur... T'sais, sur la gestion des émotions, sur plein d'affaires comme ça, t'sais, pour aider la femme. T'sais, je me disais, si j'aide les jeunes mamans, ben, t'sais, je suis directement avec ma clientèle, puis en plus, elle aide ces enfants-là éventuellement, parce que là, les parents vont mieux et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des conférences, des ateliers partout. J'ai offert des forfaits de coaching. J'ai fait des formations de marketing, d'entrepreneuriat, de Tony Robbins, nomme-les, là, j'ai tout fait. Tu sais, des fois, c'est drôle, là, parce qu'en affaires, les gens, des fois, ils disent « Ah, t'es chanceuse! » C'est comme « ouais! » Okay. Non, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a des opportunités, des fois, que tu dis « Ben ça, je peux pas l'inventer, mais en même temps, moi, je crois vraiment à notre pouvoir d'attraction puis d'être capable d'être dans la bonne énergie, d'attirer les bonnes choses que t'as envie de vivre dans ta vie, là. » Fait que c'est ça, fait que j'ai travaillé. Puis en plus, je me suis séparée. Puis quand je me suis séparée, je faisais 10 000 $ de revenus canadiens.
Par mois ou par an?
Par an. Ouais. Par an. Ben, genre 8 000 euros, là, genre. Puis là, les gens me disaient, ben là, trouve-toi un travail. Parce que là, j'avais démissionné là, avant de me séparer de mon travail. Puis les gens me disaient, trouve-toi un travail, salaire minimum et tout ça. Puis j'étais comme non, parce que ça va m'enlever tout le temps que j'ai à construire mon entreprise puis à changer des vies. Donc, ça fonctionnait pas. Fait que les deux premières années, là, pour vrai, c'est quasiment une joke, mais c'est pas une joke. Mais tu sais, on a mangé des crêpes tous les soirs. Parce que des pancakes, je sais pas si vous appelez ça des pancakes.
Oui.
Mais tu sais, parce que j'avais pas d'argent et j'ai demandé de l'aide des banques alimentaires. J'ai des amis qui m'ont donné des effets comme des draps, des trucs comme ça, des cartes d'essence et tout ça. Là, comme j'ai eu besoin vraiment de... Je suis pas en train de dire que c'est ça la solution là, quand on se sépare, là, dans le sens que moi, c'est mon conjoint qui faisait le revenu familial donc parce que j'avais démissionné puis j'étais en train de me lancer en affaires. Donc, j'avais pas de revenu.
Ouais, ça a été hyper courageux de ta part de partir dans ce contexte.
Exact. Ah non, c'est ça, j'avais rien. Là. C'est ça. Donc, fait que j'ai ça. C'était très courageux, mais en même temps, ça te donne le courage aussi parce que tu as 3 enfants quand même. Tu vas pas perdre la garde de tes enfants parce que tu n'es pas capable de les nourrir. Là. Tu sais, je veux dire, fait que ça te donne comme le petit push qui fait que tu sors vraiment de ta zone de confort, peu importe. Parce que là, tu as tes enfants qui rentrent en ligne de compte. Là. Donc, c'est ça. Fait que je me suis mis aussi à faire beaucoup de partenariats ici avec le réseau des mères en affaires. Je me suis mis à faire des conférences partout au Québec. Des fois, il y avait 2 personnes, 4 personnes. Je me déplaçais à 5 heures de route. Il n'y en avait pas de problème. Là. Tu sais, j'y faisais tout. Puis là, je me suis mis à coacher toutes ces femmes-là qui avaient là-dedans. Puis là, à un moment donné, mon nom il a commencé à circuler puis tout ça. Et j'ai eu un appel vu que j'avais déjà fait de la PNL puis que j'avais déjà mon cours en enseignement puis j'avais enseigné tout ça d'une école en bien-être ici au Québec. l'école Cybelle et elle m'a offert d'offrir mon propre cours de PNL dans son école. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est en 2018. Fait que là, elle m'a offert ça. Et puis, tranquillement, j'ai développé ma propre approche de génie humain. Et puis, j'ai rajouté ça parce que j'ai fait tellement de formations. Mais...
Justement, c'est ce que j'allais te poser la question. Donc, du coup, tu as créé ta propre approche de génie humain. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Bien sûr! Dans le fond, c'est parce que je coachais beaucoup de monde avec la PNL. Puis, les gens me disaient « Ah, j'ai déjà essayé la PNL, puis ça faisait pas ça. » Puis, des gens me disaient aussi « Ah, ben t'es sûr, la PNL, j'ai déjà essayé, puis j'ai pas eu tel. » Parce que... Tu sais, en plus, il n'y a jamais aucune approche qui a 100% de résultats. Là, tu sais, dans le sens, il faut que tu trouves l'approche qui fonctionne pour toi, pour ton processus, pour ce que tu as envie de vivre et tout et tout. Et à un moment donné, à force de me faire dire ça, ben j'ai une coach d'affaires qui m'a dit « Tu réalises-tu que tu as créé quelque chose? » Parce que là, tu fais quelque chose qui ressemble pas à ce que les autres ont l'air de connaître de la PNL. Et j'ai appelé ça le génie humain parce que je trippe tellement sur l'être humain. Pour moi, tout le monde est extraordinaire, tout le temps, peu importe ses comportements, parce que comme j'ai dit tantôt, il y a des stratégies, il y a des conditionnements, il y a des croyances qui font ce qu'on fait. Puis, en arrière de ça, il y a toujours le potentiel humain. Puis, tout le monde est né extraordinaire. Puis, dépendamment de ce qu'on a vécu, ben ça l'a fait ça, tu sais. Donc, j'y crois tellement que j'ai appelé ça le génie humain. Puis, c'est ça. Fait que là, ça va être ma 6e cohorte là, cette année que j'enseigne pour former des coachs. Donc, c'est ça. Fait que je suis devenue la prof de mon propre programme. T'imagines? C'est vraiment cool.
et donc, du coup, là, aujourd'hui, tu as ce programme. Tu continues à coacher aussi des personnes en direct?
Non. Dans le fond, depuis 2-3 ans, j'ai arrêté les coachings individuels. Dans le fond, c'est les coachs que moi, j'ai formés, à qui je réfère. Parce que dans mon livre, j'en parle beaucoup de coaching. Puis des fois, les gens, ils m'écrivent pour avoir du coaching. Donc, je réfère les étudiantes que j'ai formées, là, les coachs que j'ai formés. Ouais.
Super. Et tu as écrit un livre, donc comme tu le disais. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire plus?
Les gens ne voient pas, là, Maria?
Non. Oui.
J'ai mis mon chandail, t'es pas game. Pour vous, ça veut dire, je pense, t'es pas cap ou genre cap, pas cap?
T'es pas cap.
T'es pas cap. Exact. C'est ça. C'est dans le fond, encore en 2018-2019, j'étais comme tellement en... C'est un peu comme quand tu comptais tantôt, je pense, hors micro... que tu as voulu faire une différence justement pour aider les gens avec ton podcast et tout ça. Tu sais, on a comme une urgence en dedans de nous qui veut faire quelque chose. Puis je me suis dit, comment je peux rejoindre, tu sais, comment mon message peut passer pour faire une différence dans un maximum de vie. Et le livre est arrivé parce que je me suis dit, c'est un moyen facile de rejoindre les gens. Tu sais, ça peut être en ligne, ça peut être en e-book, ça peut être, tu sais, papier, mais je veux dire, tu n'as pas besoin d'être là. Et deuxièmement, c'est beaucoup moins confrontant. Parce que je dis des choses quand même que des fois, les gens, ils sont pas habitués d'aller en vulnérabilité ou que ça les sort de zone de confort. Fait qu'ils sont pas prêts encore des fois à aller en coaching. Mais ça, le livre, sont tout seuls avec eux-mêmes. Donc, c'est moins confrontant. Et je l'ai écrit avec l'hypnose conversationnelle. Donc, ça veut dire que les gens, ils lisent. Puis, au fur et à mesure qu'ils lisent, ils se transforment. Puis, ils font des prises de conscience. Puis, ils sont comme, ah, je comprends pas. Après ce chapitre-là, j'ai déjà changé. Puis là, ils relisent le livre. Donc, c'est ça que je voulais. Je voulais du coaching d'étape de chevet. Je voulais vraiment faire une différence dans un maximum de vie et je trouvais que le livre c'était, puis je suis une passionnée de lecture aussi là et d'écriture et tout ça, fait que j'ai trouvé que c'était vraiment un bon médium pour rejoindre un maximum de personnes.
Ouais. Comment t'écoutes ton intuition?
J'écoute mon intuition, ça va paraître peut-être drôle, mais quand, nous on appelle ça j'ai la chienne, fait que je sais pas vous autres, quand tu sens que t'as peur, là, tu sais, que t'es comme, eh, oh my God, pas sûr. Ça, c'est sûr que c'est là qu'il faut que j'aille. Tu sais, c'est fou quand même, là, mais c'est ça. Quand j'ai le petit, je sais pas si toi, ça te fait ça des fois, là, mais tu sais, le petit feeling en dedans de fébrilité, mais en même temps, t'es comme, ouh, tu sais, comme, pas un genre pas sûr, oh non, je vais faire une gaffe, là, mais juste comme, eh, tu le sens, là, que ça te sort de ta zone. Ça, je me dis ça, c'est mon intuition qui me dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Puis, ouais, c'est ça. C'est très rarement rationnel. T'sais, c'est pas des affaires que les gens font comme « Ah, ça fait du sens! » Non.
Non, c'est beaucoup plus profond à l'intérieur de soi. Ouais.
Vraiment, vraiment.
Comment tu célèbres tes réussites?
C'est une bonne question. J'ai pas de rituel vraiment. C'est comme si... Parce que je sais que t'sais, souvent, les gens ils vont parler de ça, ils vont dire comme « OK, il faut célébrer nos réussites et tout ça, puis comme ils font des choses. » Mais on dirait que c'est comme si c'était tout le temps. T'sais, dans le sens que pour moi, célébrer mes réussites, c'est la façon quotidienne que je vis ma vie. Je sais pas si c'est clair, mais tu sais, dans le sens, c'est pas juste comme, OK, je fais du travail, du travail, du travail. Oui, j'ai réussi. Là, je célèbre ça. Non, c'est comme, tout est à célébrer tout le temps. Là. Tu sais, c'est au quotidien. Je m'organise pour vivre, tu sais, comme si tout était à célébrer. Fait que finalement, j'ai pas à célébrer à des moments X, tu sais.
Ouais. Et d'ailleurs, l'attachée de presse donc, qui m'a contactée qui m'a parlé de toi me disait que ton livre T'es pas game, tu l'avais vendu de façon incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter?
Oui. Est-ce que tu veux que j'aille dans les détails de comment?
Ouais, vas-y. Ah,
parfait.
On a le temps.
C'est ça. Comme j'ai dit tantôt, tu sais, des fois, les gens, des fois, ils sont déçus un peu parce qu'ils disent, tu sais, comment t'as fait? C'est difficile, tout ça. Comme j'ai dit tantôt, quand t'es dans ton génie ou dans ce que, tu sais, ça te demande moins d'efforts. Fait que ça m'a pas pris tant de temps. Sauf que l'affaire qui était difficile pour moi, c'est que le livre, la première fois, il est sorti en 2019. Et là, comme beaucoup de gens, tu sais, nous ici au Québec, là, c'est un petit marché. Et en plus, maintenant, ben, on a tous vos livres. Tu sais, on a les livres de la francophonie mondiale. Puis en plus, tous les livres anglophones sont traduits pratiquement là, dans le développement personnel. Là. Donc, ça en fait beaucoup de livres qui arrivent en librairie à tous les mois là, en français. Et on en vend à peu près 1000 copies. Ça, c'est la moyenne d'un auteur au Québec qui vend des livres, tu sais. Fait que moi, j'ai écrit mon livre, puis je me suis dit, ah, je vais, tu sais, tu mets toutes tes tripes, là, tu sais, tu donnes tout dans ton livre, tu dis, ça y est, ça va le faire, là, c'est sûr que ça fonctionne. Puis là, ben, t'attends, puis là, t'en parles, puis tu l'amènes un peu dans tes conférences, puis ci, puis ça, puis, tu sais, puis là, t'es comme, OK, j'en ai vendu 300, 500, 1000, puis là, t'es comme, OK, j'ai fait le tour. Fait que j'ai réalisé que, dans le fond, je poussais pas mon livre. Ben, premièrement, j'ai appris que ça demande beaucoup de marketing, là, tu sais, je veux dire, être auteur, tu sais, c'est sûr que quand tu as une maison d'édition puis tu as une équipe, ça l'aide parce que tu peux te concentrer sur ta job d'auteur, d'écrire, et il y a quelqu'un qui prend en charge le reste. Mais sinon, ben, tu sais, oui, de l'écrire, mais après, il faut que tu en parles parce qu'il y a personne qui sait que ton livre existe. Fait que là, tu sais, je me suis ramassée avec des boîtes de livres que personne ne savait que ça existait. Tu sais, les gens, ils sont pas chez eux à faire « t'es pas game, ça doit exister comme livre. » Mais non, tu sais, ça n'en a pas, pas parlé, ils ne savent pas. Donc, j'ai réalisé que... je commençais quand même à avoir des bons commentaires, là, tu sais, du bon feedback de gens, « Oh mon Dieu, ton livre, c'est extraordinaire, ça m'a permis de vivre tel truc. » Puis là, j'étais comme « OK, mon livre, il a l'air d'être bon, là, tu sais. » Et parce que t'as beau penser que ton livre est extraordinaire, si les lecteurs, les lectrices, eux autres, ils le trouvent juste correct, c'est eux qui décident, là, tu sais, dans le sens, c'est comme ça que ça marche, là, c'est comme avec n'importe quelle œuvre d'art, là, tu sais, c'est la personne qui consomme qui décide. Et j'ai réalisé que j'avais vraiment peur parce que, tu sais, dans le fond, un livre de développement personnel, mais même un roman, mais tu sais, c'est toute ma vulnérabilité qui est là-dedans, là. Tu sais, c'est toutes mes expériences, c'est toute ma perception de la vie, de tout ça, fait que quand les gens, ils jugent pas juste les trucs que je donne, ils jugent toute ma vulnérabilité parce que c'est tout ça qu'il y a dedans. Donc, j'ai vu que, tu sais, j'ai eu à travailler ça, en fait. Là. J'ai eu à travailler la peur du jugement, la peur du succès. Tu sais, et s'il était connu, puis il fonctionne mon livre, là, ça veut dire qu'il faut que j'assume tout ce qu'il y a là-dedans. Puis, donc, c'est ça, j'ai réalisé que j'avais cette peur-là. Puis, finalement, quand j'ai travaillé, j'ai décidé d'engager une agence de publicité. Puis de mettre de la publicité sur Facebook pour faire connaître mon livre au maximum. Et l'année passée, j'ai atteint par moi-même, dans le fond, en auto-édition, 8000 ventes.
Wow, ouais, c'est bien. Ouais, c'est... 8000. Oui, on dit, je crois, un best-seller, c'est à partir de 3 ou 4 000 livres de mémoire.
Oui, bien ici, en auto-édition, c'est 3 000. Puis avec une maison d'édition, c'est 5 000 au Canada. Dépendamment de t'es où, c'est différent, là. Puis... c'est drôle parce que là, quand j'ai commencé à voir que là, ça le faisait, puis là, je recevais encore plus de commentaires, comment c'était hot. Puis même, tu sais, même si je l'ai écrit au féminin puis que je vise quand même la femme, j'ai des hommes qui le lisent puis qui m'écrivent à quel point ça change leur vie. Fait que ça, c'est vraiment cool. Et là, je me suis dit, OK, je pense que j'ai un coup de circuit, là. Je pense que j'ai écrit quelque chose de pas pire. Et j'ai appelé des maisons d'édition. Et imagine le marché de l'édition, comment il est fait. Les gens, j'ai des éditeurs qui me disaient « Ah, mais là, t'as déjà dépassé les 5000 copies, fait qu'ils sont tous vendus tes livres, fait que ça sert à rien qu'on embarque avec toi. » Tu sais, dans le sens, c'est déjà, tu sais...
C'est déjà bien.
Trop tard, on a perdu nos ventes. Dans le fond, il a fallu qu'on soit avant. Oui, mais avant, tu voulais pas. Fait que, tu sais, c'est comme... Donc, mais j'ai tombé sur une maison d'édition qui ont vu mon potentiel, qui ont vu la personne que j'étais, puis qui signe des personnes, justement. Chez Béliveau, ils signent pas des livres, ils signent des humains. Donc, ils ont vu l'humain, puis ils ont voulu faire affaire avec moi, dans le fond. Puis là, ben là, on est rendu à près de 20 000. Là. On a dépassé, dans le fond, les 15 000. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est depuis le mois d'août. Fait que c'est vraiment, là, vraiment extraordinaire. Mais tu sais, mon livre, je mets des pubs sur Facebook en Europe. Je mets des pubs, tu sais, je l'ai fait traduire. J'ai payé pour la traduction. Je mets des pubs au Canada anglais, aux États-Unis. Tu sais, je veux dire, c'est moi qui fais ça, là.
Ouais, t'as énormément investi.
Vraiment, j'entreprends mon livre, là. J'investis, même si j'ai une maison d'édition, j'investis encore 40 000 $ par année canadien, par année de pub sur Facebook.
Ouais, c'est énorme.
Fait que, tu sais, c'est ça. Parce que je connais son potentiel maintenant et je veux lui donner les outils à la hauteur de ce qu'il est, tu sais. Parce que souvent, ce qu'on voit, les gens, ils écrivent un livre, ils font comme « Ah, bon, j'ai vendu 1000 copies, OK, je vais en écrire un autre. Peut-être que l'autre prochain, ça va fonctionner. » Ouais, mais ça attend. Si tu as des bons commentaires sur tes 1000 copies, pousse ton livre. Tu sais, celui-là, il peut faire beaucoup déjà, là. Ouais. Puis là, je suis en train d'écrire le prochain qui va sortir cet automne.
Ah, super. On peut savoir la thématique?
Et ça va être la suite, en fait, parce que 4 ans plus tard, on s'entend qu'avec tout ce que j'étudie, ça l'a évolué. Donc, justement, aujourd'hui, j'ai demandé en sondage sur Instagram, t'es pas game 2 ou encore game ou tu vas-tu le faire ou tu sais, comme les gens, je leur demandais quel titre j'allais donner. Mais ouais, je vais finaliser ça pour le mois de mai, puis après ça, ça va sortir cet automne. Mais super. Là, mon livre T'es pas game est déjà disponible partout en Europe sur la Fnac et tout ça, là. Fait que ça commence, là. J'ai fait mon entrée européenne. En janvier.
Doucement. Et tu, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, tu seras en avril au Salon du Livre à Paris.
Oui! Ouais. J'ai trop hâte. Avec ma fille qui s'arrachait les cheveux, qui a plein de cheveux maintenant.
C'est quoi pour toi la réussite?
Oh, pour moi la réussite c'est vraiment de vivre une vie alignée à soi-même. Ça se calcule pas en best-seller ou en succès ou en argent ou... Tu sais, si tu crées une vie à la hauteur de ton extraordinarité, que je dis tout le temps, tu sais, de ton génie, puis que t'es bien dans toutes les sphères de ta vie, tu sais, en amour, en santé, en argent, tout le temps, ça, c'est moi, c'est ça, la réussite. Parce que si t'as une de ces sphères-là qui réussit, tu sais, des fois, t'as des gens là qui, OK, là, ils mettent leur focus sur l'entraînement, sur la santé physique et tout ça, mais ils ont full de difficultés financières, ils sont pas heureux au travail, ça va mal avec leur conjoint. Pour moi, tu sais... OK, c'est le fun, t'as ça, mais comme, et c'est vraiment global. Pour moi, c'est vraiment, de se sentir bien dans sa propre vie. Tu sais, comme t'as dit tantôt, on a juste une vie, pourquoi se faire suer, là? Tu sais, dans le sens, fait go, là, moi, c'est ça mon moteur. Tu sais, fait que quand il y a quelque chose qui me dérange, c'est pas long. Même si ça me sort de ma zone de confort, tu sais, comme de congédier une employée, de dire à une partenaire d'affaires que c'est terminé, c'est pas des affaires, que je me lève pas le matin en me disant « j'ai goût de mettre quelqu'un dehors ». Tu sais, c'est pas ça. Mais je vais pas attendre non plus, puis je vais pas étirer ça parce qu'à un moment donné, je me dis « j'ai juste une vie à vivre », puis je vais m'organiser. Je sais tellement que j'ai du pouvoir sur ce que je vis que je vais m'organiser pour que ce soit « wow » tout le temps. Puis je suis pas dans un monde de licorne, là, dans le sens… c'est pas magique, là, mon truc, là, tu sais, dans le sens que j'ai envie aussi des déceptions puis des défis au quotidien puis des gens qui m'écrivent que mon livre est vraiment mauvais. Tu sais, j'ai tout ça, là, comme tout le monde, là. Mais j'ai pas le temps de... Tu sais, j'ai pas de temps et d'énergie à donner à ça parce que je suis trop occupée à bien aller. Genre, je suis trop occupée à... C'est ça. À m'organiser pour être alignée dans ma vie.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Marisol de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Ah, on dirait que je vais dire, j'espère qu'elle est contente, mais en même temps, tu sais, sûrement, parce que c'est la même personne. Je pense vraiment qu'elle trippe parce que, tu sais, dans le fond, j'ai réalisé ses rêves là, d'être scientifique et d'être enseignante. Je suis curieuse de l'être humain. Je rencontre des personnes extraordinaires comme toi aujourd'hui, tout le temps. Tu sais, ça, c'est ma vie, comme tout le temps. Pour vrai, des discussions comme ça, super profonde avec plein de monde. Fait que je pense qu'elle vit sa best life.
Et aujourd'hui, du coup, t'es toute seule dans l'entreprise ou il y a d'autres personnes avec toi?
J'ai une équipe, en fait. J'ai une adjointe. Maintenant, je suis rendue à 2 enseignantes qui enseignent avec moi mon programme. J'ai une adjointe administrative. J'ai quelqu'un qui fait mes publicités. J'ai une graphiste. J'ai j'ai quand même assez... Tu sais, ça m'a pris un moment, là, mais à un moment donné, de déléguer ce qui n'était pas mon génie pour mettre le génie des autres en valeur, justement, puis pour pouvoir me concentrer sur qu'est-ce dans quoi moi... Bien, pas juste dans quoi je suis bonne, mais dans ce que j'ai envie de faire aussi. Tu sais, moi, j'ai goût d'écrire, ben tu sais, c'est ça. Fait que si je fais de la comptabilité, ben j'ai moins de temps pour écrire.
C'est sûr. Oui, et puis t'as pas la bande passante, ouais.
Exactement.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi, du coup, pour toi, les renoncements?
On dirait que ça n'existe pas. Quand tu m'as posé la question, ça a fait comme un genre, ça a passé tout droit, ça a fait comme... Parce que... Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là, dans le sens, si tu choisis ça, tu n'as pas choisi ça, fait que tu fais un choix, tu sais, puis là, tu... parce que... Pourquoi que ton choix ne serait pas le choix, tu sais? Fait que si c'est le bon choix, il n'y en a pas de renoncement. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais pour vrai, t'as posé la question puis ça a passé tout droit. Là, genre, ouais. ça a pas fait de lien avec rien. Je suis comme, ben non, moi, je renonce absolument à rien. Là. Moi, j'ai l'expression vouloir le beurre, l'argent du beurre. Moi, j'ai le beurre, l'argent du beurre, la ferme laitière, j'ai tout le kit. Là. Dans le sens, je veux dire, je pense que... Puis je sais que souvent, les gens, ils pensent que c'est utopique, mais je l'ai vécu tellement de fois qu'on peut tout avoir. Puis que c'est vraiment de travailler sur soi, travailler sur ses blocages, travailler souvent sur les blocages d'abondance. Le nombre de gens que j'ai accompagnés qui, premièrement, au début, ne savent pas ce qu'ils veulent. Là, quand on met de la clarté sur leurs objectifs puis qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre dans leur vie, là, c'est trop pour eux. Ils pensent qu'ils ne méritent pas. C'est trop difficile. Fait que là, il faut travailler énormément le blocage de l'abondance de la vie parce que c'est ça le plus gros morceau. Fait qu'au début, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais quand ils savent, c'est trop pour eux. Fait que, tu sais, c'est ça. Parce que sinon, sinon, tu peux tout avoir.
Ouais, l'abondance, c'est un vrai sujet. Hein. C'est quand tu prends conscience, tu travailles sur l'abondance, tu te rends compte, en effet, à quel point, quand tu... Bah, ça correspond aussi à la loi de l'attraction. Hein. C'est que tu peux attirer à toi ce que tu penses, en fait.
Vraiment, vraiment. Mais l'affaire, c'est que les gens, souvent, comme ils manquent d'estime d'eux, t'sais, tout ça qui parle de où ils partent, mais t'sais, comme ils manquent d'estime, ça veut dire qu'ils diminuent leur valeur, puis ça fait qu'ils vont se contenter. Tu sais, c'est le truc qui fait que les gens, des fois, ils vont pas faire d'action. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que c'est de l'auto-sabotage. Ah, il va procrastiner, il va s'auto-saboter. Non, c'est parce qu'ils pensent pas qu'il mérite plus. Ils pensent pas qu'il peut exister autre chose pour lui. Fait que c'est pour ça qu'il fait pas d'action. Parce que si tu penses qu'il y a pas d'autre chose qui existe, tu fais rien.
Ouais, ça m'a fait sourire quand je l'ai vu dans ton livre. Alors, j'ai pas tout lu dans le livre, mais il y a eu des mots qui ont tilté quand tu parles, et c'est les mots que j'utilise, c'est la zone de confort inconfortable.
Exactement. Mmh. Exactement. Fait que c'est la zone de confort inconfortable, mais parce que t'as acheté une croyance pas chère à un moment donné que c'était ça que tu méritais dans la vie. Tu sais, que c'était ça que t'avais. Fait que les gens, souvent, vont se contenter. Puis c'est correct, là, dans le sens que quand tu te contentes, ça veut dire que t'es pas toujours dans le manque, puis t'es pas toujours dans vouloir plus, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut que t'aies le mix entre tes deux, tu sais, comme le juste milieu. Parce que, tu sais, ah oui, OK, tu te contentes, t'as pas d'attente, puis t'es OK avec ce que t'as, mais est-ce que c'est vraiment ça que t'as envie de vivre dans ta seule vie en ce moment? T'sais? Puis là, si c'est pas le cas, ben go, tu sais.
C'est quoi la plus grande difficulté que t'as eu à traverser?
Étonnamment, là, c'est pas ma dépression, tu sais, pour vrai, j'aurais pu penser que c'était ça. Mais c'est très frais. Mais je te dirais, c'est dur à dire, pour vrai, parce que, tu sais, moi, des cadeaux emballés, là, j'appelle ça des cadeaux War Patawar, là, dans mon livre, là. Moi, je vais toujours travailler, chercher le truc War en arrière. Mais je te dirais d'avoir été en relation avec une personne narcissique. Ça aussi, là, c'est un autre genre de truc, un peu comme la dépression, là, que tu te réveilles un matin puis t'es comme, oh my God, je suis comme pris dans une toile d'araignée puis j'avais pas vu ça aller. Je te dirais que ça, c'était quelque chose quand même, beaucoup de blessures reliées à ça et tout ça. Mais une fois que t'as pris conscience, ça va bien parce qu'après, tu les règles puis tu mets en place tes stratégies de libération. Mais le pendant, là, ça a fait tellement de... Ça m'a remis tellement en doute de la valeur que j'avais comme être humain, de la personne extraordinaire que j'étais. Tu sais, moi, là, qui aime tout le monde puis qui croit au potentiel de tout le monde, ne l'avais plus en moi-même. Ça, là, c'était fort parce que ça a été, tu sais, pour que quelqu'un puisse me faire douter de ça, tu sais, quand j'ai ça depuis toujours. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, je suis pas une victime de ça, dans le sens que je suis responsable d'avoir choisi cette personne-là dans ma vie, de faire une place, de le rechoisir à chaque fois, même s'il faisait tel truc, là, tu sais, je veux dire, je suis responsable de ça, là. Mais ça, c'était quand même souffrant, je te dirais.
C'est fou parce que tu vois, j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont été en relation avec des pervers narcissiques et il y en a même qui ont été jusqu'à se faire battre. Hein. Mmh. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, mon analyse maintenant, c'est que c'est, enfin mon analyse, et puis finalement j'ai lu beaucoup de choses depuis sur ce type de personnalité, c'est qu'en fait, quand c'est des hommes, ils ne s'attaquent qu'à des personnes fortes parce que justement, ils vont chercher leur énergie, ils vont chercher leur confiance en elles. Et c'est fou de voir, en effet, parce que tu peux te dire, mais comment ça peut arriver à telle femme qui est tellement... voilà, qui est vraiment quelqu'un de super intelligent, qui est sensible, qui est empathique et compagnie. Et justement, c'est les meilleures cibles.
Exact. Puis, tu sais, exactement, ils vont choisir ça. Puis, ils sont super bons dans le, ils appellent ça le, excusez mon accent, mais le mirroring, là, tu sais, le fait miroir. Où est-ce qu'ils vont te refléter? Qu'ils vont te dire tous les trucs sur toi comme s'ils te connaissaient par cœur. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, cette personne-là me lit en moi. Comme, oh mon Dieu, elle voit à travers moi, elle me comprend tellement. Mais dans le fond, ils sont juste comme en train de faire l'effet miroir pour aller chercher des informations sur toi pour s'en servir. C'est fou. Puis c'est ça, exact. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'ils vont chercher ces personnes fortes-là, mais en même temps, je pense que ces personnes fortes-là sont pas fortes pour rien. Ils ont développé des stratégies, justement, de force pour combler quelque chose, tu sais, comme pallier à quelque chose. Fait que, tu sais, puis je pense que les narcissiques sont capables d'aller voir ça puis là, d'aller comme là où ça fait mal, tu sais, finalement.
Ah, ben clairement, ils savent appuyer exactement là où ça fait mal et à la fois te mettre sur un piédestal et à la fois te rabaisser plus bas que terre et qui fait que du coup, tu te dis, mais... Enfin, que la personne, du coup, elle se dit, non, mais en fait, je peux pas partir, je suis rien sans cette personne.
Et puis, au final, tu dis, tu sais, ça fait que tu ressens vraiment que tu t'es jamais correct. Tu sais, c'est ça. Parce que c'est ça. Tu sais, vu que piédestal, mais après ça, tu tombes, fait que là, t'es toujours dans ce truc-là de vouloir être aimé, de vouloir être correct et tout ça. Puis évidemment, ça vient d'un truc que, tu sais, dépendamment de, tu sais, vu que t'as besoin, je veux dire, la personne qui est victime de ça, souvent, elle a un pattern d'aller chercher de l'amour à l'extérieur.
Exactement.
Dû à autre chose, là, tu sais, de son enfance et tout ça, là. Fait que c'est ça. Mais oui, je te dirais que ça, parce que ça m'a tellement fait douter. Pour vrai, j'en reviens pas. Pour vrai, là, qu'est-ce qui est fou de ça, c'est que j'ai tout écrit. Parce que pendant, moi, j'ai continué à écrire, là. Puis pendant, j'écrivais, puis là, j'ai relu récemment. Et j'ai fait, ben non, ça se peut pas que j'aie pensé ça de moi. Ça se peut pas que j'ai écrit ça. Ça se peut pas que je me suis traitée de ça, que j'ai pensé. Puis comme tu disais tantôt, là, tu sais, pour moi, de penser que, tu sais, comme que j'étais pas intelligente, que je me, tu sais, j'étais difficile, là, tu sais, de tout passer à travers ça. Fait que je te dirais que ça, c'était un gros morceau. J'ai vraiment... j'ai mis ça un peu dans... J'ai mis ça de côté en ce moment, là. Tu sais, comme toi un peu avec ta séparation, là, dans le sens... Tu sais, je mets ça un peu de côté, mais je vais sûrement écrire quelque chose là-dessus parce que je pense que... Juste pour donner au moins les clés, les outils de repérage et tout ça, puis aussi les
stratégies. D'identifier, déjà pouvoir permettre d'identifier, de comprendre. Ouais. Tu vois, hier soir, je dînais avec une copine qui s'est séparée il y a pas longtemps et voilà, bon, son... Alors, est-ce que lui, il est pervers narcissique ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, il était sacrément dérangé. Et il a fait vraiment perdre confiance en elle d'une façon impressionnante. Et je lui ai dit, tu sais, il faut vraiment, voilà, moi je dis, moi j'ai réussi, j'arrive à avancer à grands pas parce que voilà, j'ai fait mon burn-out et que j'ai appris que j'étais une personne bien, que j'ai des valeurs et je sais ce que je vaux, même s'il y a des jours où bah forcément ça chamboule, mais je lui ai dit, tu sais, ce qu'il faut, c'est qu'en effet, t'arrives à t'aimer toi parce que moi je sais qu'avant je m'aimais pas et donc comme je m'aimais pas, bah je me respectais pas et donc je me faisais pas respecter. Mm-hmm. Et c'est la clé, c'est d'apprendre à savoir quelle femme extraordinaire tu es pour justement bah te dire. En fait, je mérite d'être avec quelqu'un, de quelqu'un de bien, et même si je suis pas avec quelqu'un, je suis quelqu'un de bien, quoi.
Exact. Puis tu sais, au final, comme tu dis, tu sais pas si c'est un pervers narcissique ou pas, mais tu sais, l'important, c'est pas le diagnostic ou l'étiquette. L'important, c'est toi avec toi-même. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Puis est-ce que tu fais le choix après ça de partager ton quotidien avec cette personne-là? Puis qu'est-ce que ça te fait vivre, tu sais? Puis qu'est-ce que tu mets en place pour être bien? Puis c'est ça le miroir que tu as fait, puis c'est ça qui est extraordinaire, tu sais, pour lui montrer, tu sais, comme, mis à part tout ça, mais toi avec toi-même, tu sais, quel genre d'amour que tu donnes, quel genre de respect que tu donnes, puis qu'est-ce que tu permets que les autres, tu sais, comment tu permets que les autres te traitent, tu sais.
D'ailleurs, petit clin d'œil de l'univers de Malade Mentale, c'est que donc c'est elle qui est partie et elle me dit ah bah l'autre jour il est passé pour chercher les enfants et tout, et il m'a donné un bracelet et je dis mais montre, et elle me dit bah je l'ai là. Je dis mais comment t'as le bracelet? Bah oui, c'était notre anniversaire de rencontre. Je dis mais enfin vous êtes plus ensemble, enfin. Et je dis mais montre-moi ce bracelet là s'il te plaît. J'étais un peu en colère. Je dis montre-moi le bracelet là. Je dis mais c'est, ça représente quoi? Elle me dit bah des menottes.
Non.
Je lui dis non mais t'es sérieuse, tu gardes des menottes à ton poignet de
ça s'invente pas
mais oui c'est ça. Et j'ai dit mais je dis en plus c'est, enfin il y a une marque en France ça s'appelle Dinvan où c'est des menottes, c'est en argent ou en or, donc c'est un peu de valeur financière, tu vois. Je lui dis mais au moins c'est, enfin c'était des Dinvan, t'aurais pu les revendre, mais tu m'enlèves ça tout de suite quoi.
Oh my God.
Et elle me dit c'est fou depuis qu'elle le porte le bracelet, donc ça fait deux semaines je crois, un truc comme ça. Depuis que je le porte, je me sens pas bien. Je dis non mais tu me, je lui dis tu sais quoi? Elle me dit non mais j'enlèverai plus tard. Je fais non, je viens te l'enlever moi tout de suite.
Puis tu sais, ça fait partie de ton processus parce que tu sais ça c'est des tactiques typiques de narcissiques dans le sens de ils sont fins, tu sais dans le sens ils te donnent des cadeaux, ils te rendent des services, tu sais. Fait que là tu te dis ben ça se peut pas que ce soit une mauvaise personne. Ouais. Tu sais il fait tel truc, mais
Mais d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu pensais que toutes les personnes, enfin, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec, avec une de mes invitées, Annabelle Brouhan. Et, est-ce que toi, tu penses que tu disais toutes les personnes sont extraordinaires, typiquement, voilà, un pervers narcissique. Est-ce que tu penses que quand même c'est une personne extraordinaire et c'est une bonne personne?
Oui, parce que c'est pas les comportements de la personne qui définit qui elle est, puis les pauvres. Ce qui est montré dans les recherches, il n'y a personne qui naît pervers narcissique. C'est tous des gens qui ont des très gros traumas et qui sont blessés comme jamais. Fait que ça n'excuse pas les comportements. Fait qu'après ça, c'est pour ça que dans mon livre, je veux donner des outils, tu sais, comme puis pour les reconnaître et tout ça. Mais je pense quand même que cette personne-là extraordinaire en arrière. Après ça, ça n'excuse pas les comportements, mais la personne n'est pas qu'un comportement, tu sais. Fait que c'est vraiment d'aller voir là-dedans. Puis c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai toujours vu un peu mon livre, mais une approche responsabilisante dans le sens que, tu sais, l'idée, c'est pas non plus d'être victime de ça, tu sais, parce que ça t'enlève ton pouvoir sur ta vie. Fait que tu veux pas te dire comme, ah, ben là, je suis victime de cette personne-là, tu sais, comment elle me fait vivre ça, tout ça. Oui, OK, mais là, maintenant que tu le sais que t'es victime parce que tu le dis, qu'est-ce que toi, tu mets en place? Mais tu peux, puis là, après, tu fais le choix, comme j'ai tantôt, d'être en contact avec ou non. Mais étonnamment, oui, parce que, tu sais, à la base, cette personne-là, tu sais, comme, je pense pas qu'elle a des beaux comportements parce que c'est très destructeur, mais je pense quand même qu'en arrière, c'est quelqu'un de blessé énormément. Puis l'affaire avec les pervers narcissiques, c'est que c'est tellement loin que la majorité ne savent pas. Ils ne savent pas et ne sont pas capables de prendre conscience qu'ils ont ce trait-là. Donc, tu peux pas attendre qu'il change. Tu peux pas attendre qu'il fasse
la prise de conscience.
Tu peux pas attendre qu'il me blâme pour dire je veux être différent.
Ouais. Et puis c'est des gens qui veulent pas se faire aider, hein. En général, j'en avais parlé avec une, je crois que c'était une psychologue, et je lui disais mais est-ce que un pervers narcissique peut guérir? Et elle m'a dit en fait le truc c'est que tu as tellement peu de pervers narcissiques qui en ont conscience. En fait, c'est des personnes qui ont un ego qui est tellement démesuré que pour eux, ils n'ont pas besoin d'aide. Donc, du coup, ils ne vont pas se faire aider. Donc, ils ne se guérissent pas parce que, ben voilà, si tu fais pas aider, tu guéris pas.
Exact. Et puis ils ont développé cette stratégie-là pour survivre. Cet ego-là leur permet de survivre à un trauma. Et en plus, j'avais vu une vidéo justement qui disait, t'as beau enregistrer toutes les emails ou les enregistrer pendant qu'ils parlent parce qu'en plus ils ont une mémoire tu sais comme qui distorsionne toute la réalité là. Donc ils vont dire non j'ai jamais dit ça et tout ça, mais mettons que tu l'enregistres, ils vont remettre ça sur ta faute quand même en disant oh mon Dieu t'es rendu à m'enregistrer, genre quel genre de personne es-tu, tu sais. Fait qu'ils sont
toujours de la faute de l'autre. Ouais.
Ils sont toujours corrects. Fait qu'évidemment fait que tu perds pas ton temps, tu sais, dans le sens, c'est pour ça que je dis, tu sais, t'attends pas qu'il change, puis tu fais pas juste dire, ah oui, mais des fois, il est fin, ou des fois, tu sais, comme, fais un choix de qu'est-ce que toi, t'as envie de vivre dans ton quotidien. Ouais. Parce que t'attends pas qu'il change, il voit pas qu'il y a un problème.
Il y a une définition de la vérité qui n'est pas la même, enfin, les codes de base et toi, tu vas dire, bah, là, t'as menti. Bah, non, j'ai pas menti. Si t'as dit ça et que, en fait, la vérité, c'est ça, et que c'est pas une vérité il y a des vérités.
Là, à un moment donné, ça te joue dans la tête parce que là, tu te mets à douter. Tu te dis, ben là, je me sens que j'avais dit ça. Me semble que j'avais déjà fait ça. Tu sais, puis là, ben là, l'autre, t'es dit, mais non, t'as jamais dit ça. Ou là, c'est.
Ouais, ça rend ça. Ouais. Ouais. C'est, ça a été quoi tes peurs quand tu t'es lancée, du coup, quand tu as démissionné et que tu t'es lancée?
Et quand j'ai démissionné, là, je me rappelle encore, là, j'ai écrit ma lettre de démission. Parce que pour nous, là, être enseignant au cégep ici, tu as un fonds de pension, tu as des assurances, tu sais, comme tu enseignes.
Ouais, tu es assimilé à fonctionnaire chez nous, j'imagine.
Ah oui, exactement. Tu ne travailles pas 5 jours semaine, tu es congé l'été, congé un mois l'hiver, tu sais, c'est un bon salaire et tout. Et j'ai écrit ma lettre de démission et j'étais comme, oh mon Dieu, le faire enter, là, tu sais, comme pour l'envoyer, là, je me rappelle, là, c'était en janvier 2016, j'étais comme, oh my God, vas-tu vraiment faire ça? Et là, j'ai fait enter, puis là, les ressources humaines me disent, ah, ben, pas signé, faut que tu la refasses. Ah! Oh!
T'es vraiment sûre?
Fait que, tu sais, c'est le genre de truc-là que, quand tu me demandais tantôt comment mon intuition fonctionne ou me parle, c'est comme ça, là. C'est dans le sens que je le sentais que c'était ça que je devais faire, puis j'étais comme, ah, OK, je vais-tu peser? Puis là, fait que, tu sais, c'est la transition. Après ça, ben là, j'étais encore avec le père de mes enfants à ce moment-là, qui, lui, était le revenu familial. Fait que c'est sûr que c'était plus facile. Tu sais, je pouvais décider d'offrir un programme. S'il y a personne qui s'inscrit, c'est pas grave. Mais un an et demi plus tard, quand on s'est séparés, là, c'était différent. Et j'ai pour vrai travaillé énormément par rapport à ma relation à l'argent. Je savais pas faire un budget. Je savais pas si, tu sais, j'étais de celles qui fermaient les yeux, là, les doigts croisés en disant, j'espère que mes paiements vont passer. Tu sais, dans le sens, j'avais aucune idée combien je faisais, qu'est-ce qui sortait de mon compte de banque. Donc, ici, ça n'avait pas parti de l'éducation de base là, au Québec. Donc, j'ai dû vraiment me former à c'est quoi le crédit, c'est quoi, tu sais, tout ça, et vraiment commencer à faire mon budget, tout ça. Mais j'ai surtout été, en 2018, j'ai fait une formation avec Alexandre Nadeau, un très grand formateur ici par rapport à tout ce qui est énergie, coaching, tout ça. Et j'ai été il a fait une formation qui s'appelait « Relation à l'argent ». Et j'ai été défaire et j'ai doublé mes revenus cette année-là. Pour vrai, c'est fou. Ouais. Fait que tout ce que j'avais comme pattern par rapport à l'argent, tu sais, c'est niaiseux. Hein? Des fois, on y pense pas, mais j'avais de la difficulté à dépasser le salaire que ma mère avait eu. J'avais de la difficulté à faire beaucoup d'argent, à être assis chez moi, à faire du coaching en ligne. Tu sais, comme, parce que là, je me jugeais, j'étais comme, voyons, je suis pas pour faire de l'argent à juste faire ça. Tu sais, comme, fait que tout ça, ça t'empêche de faire de l'argent. Puis j'en avais des clients, mais les clients me payaient pas, me payaient en retard, je faisais de l'échange, tu sais, toutes des stratégies, là, qui faisaient que j'avais jamais d'argent finalement, là. Donc, ça, c'était un gros processus. Parce que j'avais beau faire toutes les formations inimaginables, puis moi, je suis quelqu'un qui applique. Tu sais, des fois, ils disent, ah, tu fais une formation en ligne, les gens, ils se rendent pas jusqu'au bout. Moi, je me rends jusqu'au bout, je fais tous les exercices, je fais tout ce qu'ils disent, puis j'avais aucun résultat. Je faisais des gros lancements orchestrés là, à l'américaine, là, tu sais, comme avec des webinaires pendant une semaine et tout ça. Puis, j'avais zéro vente, mais j'avais dit à des gens de partager mes choses, fait qu'il fallait que je fasse la formation quand même, parce que je leur devais la formation, tu sais. Fait que c'était comme vraiment beaucoup, beaucoup de temps, mais tellement d'apprentissage. Tu sais, ça fait qu'aujourd'hui, je peux parler d'affaires avec n'importe quel entrepreneur, même si on n'a pas le même genre de business, même si on n'est pas rendu à la même place, je comprends. Tu sais, je peux pas dire que je comprends la réalité d'un milliardaire, mais quand même, je comprends la réalité de beaucoup de monde, puis je suis capable de donner des conseils puis de coacher par rapport à ça, parce que j'ai travaillé énormément sur moi, parce que je faisais tout ce que tout le monde disait de faire et j'avais jamais de résultats. Puis là, après, quand j'ai libéré ça, j'ai doublé mes revenus, mais j'ai pas travaillé deux fois plus. C'était impossible. C'était humainement impossible. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent ça. Tu sais, ils disent, ah, ben, j'ai procrastiné, j'ai pas fait assez. Excuse-moi, mais la personne là, qui fait des milliards par année, elle travaille pas 1000 fois plus que toi. C'est impossible. Elle a le même nombre de temps. Au contraire, c'est beaucoup plus optimisé, mais elle vibre plus haut. Elle n'est pas dans des peurs de manque. Elle n'est pas dans du doute. Elle a de la confiance. Elle attire, tu sais. Tu sais, quand tu vibres plus la confiance, quand tu vibres, ben justement, quand t'es pas dans la culpabilité, le doute, le jugement, la peur, ben t'attires autre chose dans ta vie.
Ouais, t'es dans une énergie positive, du coup t'attires du positif.
Exact. Exact.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Je pense que je dirais la relation que j'ai avec mes filles. Surtout, je te compte ça, là, surtout en ce moment, parce que pour moi c'est vraiment important. Tu sais, dans le sens que on le sait, là, quand on a des enfants, c'est sûr qu'on leur donne. On leur donne des trucs, là, tu sais, dans le sens, on leur donne des croyances puis des conditionnements, là, je veux dire, on n'est pas immunisé à 100%, même si on travaille sur nous. Et la relation que j'ai avec mes filles est extraordinaire. C'est, tu sais, je me rapproche toujours de plus en plus. Tu sais, un de mes gros moteurs de travail sur moi, c'est la mère que je sais que je peux être pour mes enfants. C'est la mère que j'ai envie de leur offrir et que je sais que je peux être. Donc, c'est ma motivation. Et en ce moment, on a tellement des belles relations. Je te dirais que ça, c'est ce que je suis le plus fière parce que quand j'étais en dépression, là, j'étais pas la version de la mère que j'avais envie d'être, tu sais. Puis quand je suis dans mes peurs par rapport à l'argent puis que j'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants, je suis pas en train d'offrir non plus, tu sais, la meilleure version parce que quand t'es dans tes peurs, là, t'as moins de patience, tu sais, t'es moins dans ta joie de vivre et tout ça. Donc, je te dirais qu'en ce moment, j'ai atteint vraiment une version de mère pour mes enfants que j'avais envie d'être depuis longtemps. Puis, ça sera que je suis la plus fière, je te dirais.
On en a déjà parlé un peu, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance?
Pour vrai, la première chose que j'ai goût de dire, c'est comme, ben, teste-le. C'est comme, attends ta chance, voir si ça va le faire. C'est ça. Je pense que, pour vrai, les gens, ils parlent d'eux. T'sais, fait que je sais que quand les gens disent « Ah, ton livre n'est pas bon, ah, t'es chanceuse, dans le fond, t'es chanceuse d'avoir tel truc », les gens parlent qu'eux aimeraient ça, avoir de la chance. Ça fait que ça parle qu'eux ne sont pas responsabilisés puis ils n'ont pas encore vu la valeur qu'il y avait pour se choisir dans leur quotidien. Mais pour vrai, c'est ça. Je pense je dirais, ben parfait, teste-le. T'sais, comme, teste la chance, voir qu'est-ce qui va arriver. Puis après, viens me voir puis fais des actions pour comparer. C'est comme les gens qui font « Ah, mon Dieu, t'es chanceux. » Ah ouais, mais lui, il est chanceux, tout y arrive. Il est joueur de tennis ou il est pianiste ou il fait des concerts. Puis je suis comme « Ah, mon Dieu, ces gens-là, là, ils font ça toute leur vie, tous les jours. » Je veux dire, c'est fou, là. Fait que, ouais.
C'est ça. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi? »
Je pense que c'est quand je suis née. Pour vrai, c'est comme, j'ai tout le temps eu ce truc-là. J'ai tout le temps eu ce truc-là, tu sais, dans le sens, c'est pourquoi pas moi? C'est comme, ben oui, tout le temps moi. Tu sais, dans le sens, j'ai tout le temps eu ce truc-là. Puis juste, je vais te donner une anecdote. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je suis en train de faire des démarches pour changer de voiture. Ça fait 10 ans que j'ai la même minivan avec mes enfants et tout ça. Puis j'ai décidé de changer de voiture. Et en ce moment, je ne sais pas vous si c'est comme ça, mais nous, il y a des 12 mois, 18 mois d'attente pour avoir une voiture neuve. C'est vraiment long. Et j'ai rencontré la conseillère chez le concessionnaire. Puis elle me dit, ben je ne peux pas te promettre. Tu sais, ça peut prendre 6 mois si tu es chanceuse. Et sinon, 1 an, tu sais, tout ça. Puis je la regarde, puis j'ai dit, moi, j'ai un petit quelque chose de magique. J'ai dit, c'est ma fête bientôt. J'ai dit, d'après moi, tu vas m'appeler d'ici 2 semaines. 1 heure et demie après, elle m'appelait. Parce que il y a un autre concessionnaire qui voulait faire un échange de voiture avec eux et il y avait le modèle, la couleur, tout ce que je voulais, puis je m'en vais la chercher demain. Fait que
c'est cool. Ouais.
C'est ça, pourquoi pas moi? Tu sais, dans le sens, j'ai toujours su que j'avais ce petit quelque chose de magique, mais je pense que tout le monde l'a. C'est ça qui est cool. Tu sais, dans le sens, je suis pas en train de dire, moi, j'ai un petit quelque chose de magique, c'est pour ça que tout m'arrive. J'ai la profonde certitude que tout le monde a ce petit truc-là de magique. Je veux dire, tes 2 demi-cellules ont fait qui tu es, là. T'as gagné ta première course. T'es quelqu'un parce que ces 2 demi-cellules-là, parmi des millions de cellules, là, peut-être des milliards de cellules, se sont trouvées pour te créer. T'as droit à tout ce que tu veux. Tu sais, c'est sûr que c'est pourquoi pas toi. C'est sûr ouais. Que toi, tu sais.
Si t'as la conviction que tu es ce type de personne, tu le sauras.
Vraiment. Ah, vraiment. Totalement. Mais pour vrai, là, j'en reviens pas encore que j'ai dit ça. Tu sais, c'était quoi? Là, évidemment, elle m'a dit, va t'acheter un billet. Un billet de l'auto. Mais moi, j'étais comme, mais non, c'est ma vie, ça, c'est mon quotidien. Tu sais, quand je suis, tu sais, je sais que je suis une personne magique, puis je suis comme tout le monde, là, tu sais, dans le sens qu'il y a des moments que je me trouve moins magique, puis, tu sais, il y a des moments, mais c'est ça mon travail que je fais énergétique à tous les jours, tu sais, c'est pour me garder dans cet état-là de magie que j'appelle. Mais tu sais, quand tu penses que t'es magique, puis tout t'arrive, tu sais.
Tu fais quoi, du coup, comme travail énergétique pour ça?
Je fais des techniques, dans le fond, que j'ai appris dans ma formation avec Alexandre Nadeau. Fait que c'est beaucoup d'enlever des croyances, d'envoyer de la lumière, élever la vibration. Parce que, tu sais, t'as beau des fois te mettre dans un état positif. Si t'enlèves pas tout ce qui te réactive au quotidien, c'est difficile de maintenir. Ça va te demander beaucoup, beaucoup d'efforts de rester dans cet état-là. Donc, moi, je vise beaucoup la libération. Parce que des fois, t'as juste à libérer, puis automatiquement, tu changes d'état. Tu sais, si tu enlèves toute ta perception que tu as par rapport à tes blessures, par rapport à ton passé, si tu as été abusé, tu sais, puis tu enlèves toute la charge émotionnelle qu'il y a par rapport à ça, automatiquement, tu te sens dans un état de bien-être. Parce que, tu sais, souvent, les gens, on voit ça, ils vont mettre beaucoup d'efforts à maintenir un état wow, de joie et tout ça, contre tout ce qui traîne, tu sais, en arrière, toutes les blessures, le passé, continuellement. Mais si tu te défais de ça, ben, tu sais, c'est ça. Fait que, dans le fond, mon travail, les techniques énergétiques que je fais au quotidien, c'est tout le temps pour me libérer de, dès que j'ai une peur qui monte, dès que je pense à quelque chose que je veux, puis là, ça me fait un coincement dedans. Ben, tu sais, j'ai cette perception-là consciente là, de comment je fonctionne, puis de mon corps et tout ça. Ben, je vais défaire ce truc-là jusqu'à temps que, quand je passe à mon objectif, ben, que j'ai plus le coincement, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, c'est comme je parlais tantôt là, par rapport à l'abondance. Tu sais, les gens, ils veulent, là, j'ai coaché beaucoup d'entrepreneurs, mais tu sais, mettons, ils veulent faire 100 000 par année. Ben, OK, mais quand tu y penses, t'as peur, t'as des sueurs froides, t'as le cœur qui palpite, tu dis, oh mon Dieu, je serai jamais capable. C'est sûr que c'est pas dans un état pour créer ça dans ta vie. Fait que l'idée, c'est de se défaire de tout ce qui fait que tu te sens pas bien quand tu penses à ton objectif pour que ça arrive, tu sais.
Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup, tu aimerais donner aujourd'hui?
Je pense que j'aurais aimé recevoir comme... Dès que j'aurais été capable de comprendre, fait que je sais pas si c'est à l'adolescence ou début, tu sais, comme, mettons, début vingtaine, mais que, tu sais, que c'est pas qu'est-ce qui existe qui est la réalité. Tu sais, dans le sens, j'aurais vraiment aimé ça qu'on me dise qu'il existe vraiment beaucoup plus que qu'est-ce que je pense qu'il existe. Fait que, tu sais, peut-être j'aurais voulu avoir cette éducation-là à la base, mais parce que ce que je remarque, c'est vraiment que les gens, souvent, ils savent pas qu'il existe autre chose pour eux. Puis là, ils vivent ça comme si c'était leur normalité. Puis je suis comme, non, genre, c'est pas ça. Tu peux avoir encore plus, tu sais, à la hauteur de ton potentiel. Mais ouais, j'aurais aimé savoir avant que tout pouvait exister. Mais en même temps, tu sais, je pense que tout est dans tout, puis je suis vraiment contente. Tu sais, je regarde jamais zéro mon parcours parce que ça fait exactement pourquoi je suis ici avec toi aujourd'hui. Fait que ça, je changerais rien pour ça.
Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné... C'est que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est que j'étais pas ma personnalité. Tu sais, les gens souvent vont dire « Ah, oh, je suis TDAH, ou je suis ci, ou je suis ça », puis ils vont se définir dans la personnalité, puis vont mettre plein d'outils en place et tout ça. Moi, la journée où on m'a fait comprendre que je pouvais être qui je voulais tout le temps, peu importe, tu sais, peu importe mes traits, puis tout ça, puis que ça me définit pas, et ça a été très libérateur. Puis ça, c'est le fun parce que j'ai donné beaucoup de conférences, puis à un moment donné, je donnais une activité de team building et j'ai un participant justement qui était dans la cinquantaine puis je demande toujours avec quoi ils repartent et tout ça de l'atelier. Il me dit, j'ai compris que je suis pas obligée d'être ça. Tu sais, dans le fond, j'ai 55 ans et je peux encore comme changer puis être la personne que j'ai envie d'être. Puis là, pour moi, c'était ma paye parce que j'étais comme tellement. Fait que le conseil que, ouais, c'est quand j'ai compris que j'étais pas obligée d'être ce qu'on m'a dit que j'étais. Tu comprends? Tu sais, parce que... Puis les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont, mais tu sais, de dire que j'étais la nurse, puis que j'étais pas bonne en sport, puis que nanana, puis moi, j'ai longtemps eu la croyance que j'étais pas bonne en sport parce que je voulais pas être bonne en sport, parce que j'étais bonne en sport, je pouvais pas être intelligente, parce que dans mon cerveau d'enfant, j'avais enregistré que si t'étais sportif, t'étais moins brillant, puis si t'étais brillant, ben t'étais une nurse, puis que t'étais maladroite en sport, tu sais. Mais c'est ça, fait que quand j'ai compris... Quand on m'a dit qu'on pouvait être ce qu'on voulait, là, puis que je l'ai vécu en plus, là, j'ai fait comme wow, ça c'est hot.
C'est quoi tes prochains défis?
Tu veux dire dans mes projets ou tu veux dire mon défi personnel à l'intérieur de moi? Ou...
comme tu veux.
Mon prochain défi, ben, au niveau professionnel, c'est vraiment de stabiliser. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les projets et j'aime beaucoup la nouveauté. Tu sais, pour moi, je suis impressionnée que je sois autant dans la... Tu sais, que je continue de pousser mon livre parce que je suis du genre à me tanner, tu sais, comme à vouloir du nouveau rapidement. Donc, mon prochain défi, c'est de stabiliser mon entreprise par rapport à ça. C'est de pouvoir être encore dans la création et tout ça. Mais c'est pour ça que là, j'ai comme mon équipe qui est là et on est vraiment en train de mettre en place beaucoup de procédures et tout ça. Puis ça, c'est... pas quelque chose que j'aime vraiment, tu sais, dans le sens, c'est que, oh my God, tu sais, c'est long, puis c'est plate, puis tout, mais c'est fait, puis là, de construire là-dessus. Et au niveau personnel, Je te dirais vraiment de... Mon défi, c'est que je vois vraiment que tout le monde est extraordinaire, comme je t'ai dit tantôt, mais qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre après dans mon quotidien? Parce que, tu sais, moi, je pense que je pourrais être en amour avec n'importe qui. Tu sais, on est quasiment 8 milliards, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas juste un homme, une femme de ma vie, tu comprends? C'est genre, je pourrais vraiment être en amour avec tout le monde, mais là, après... J'ai de la difficulté des fois à mettre ma limite parce que je trouve tellement tout le monde extraordinaire puis je pense que tout le monde peut apporter quelque chose puis qu'il y a un potentiel. Mais est-ce que je suis obligée d'accepter tous les comportements puis est-ce que je suis comme obligée d'avoir ces personnes-là dans ma vie puis là, de mettre ma limite par rapport à ça sans jouer sur la valeur qu'ils ont parce que je pense que ça n'a pas rapport, tu sais, ça, je te dirais que c'est mon défi personnel.
Si une personne hésite à sortir de sa zone de confort inconfortable, qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
J'ai juste envie de lui dire, on va jouer à un jeu. Moi, c'est mon truc en coaching, dans le sens, on va le tester. Tu sais, on va jouer à un jeu, imagine que ta-ta-da-da-da-da. Puis la personne, là, avec son cerveau, est capable de juste imaginer la situation puis de voir qu'elle n'est pas morte de ça, que, tu sais... C'est le truc pour enlever la résistance par rapport à ça, c'est teste-le. Tu sais, il n'y a personne qui dit que tu ne peux pas refaire comme avant après. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu fais une prise de conscience qu'après, comme on disait tantôt, c'est pas parce que tu travailles sur toi que tu es obligé de te séparer. Après, tu fais ton choix de ce que tu as envie de vivre, puis OK, si c'est l'autre qui initie la séparation, ben là, tu vis avec ça, puis ce sera autre chose. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendaient anyway. Mais oui, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à sortir de sa zone de confort, j'y conseillerais de tester. Comme dans mon livre, je dis tout le temps, crois pas ce que je te dis, teste-le, puis si ça fait du sens, ça fonctionne pour toi, tu sais, c'est juste que les gens, ils pensent que c'est la fin après. C'est comme une finalité, mais pas du tout. C'est juste une autre expérimentation de la vie, tu sais.
Après, moi, je suis convaincue hein, que rien n'arrive par hasard et que voilà, si ça devait se passer, c'est que ça devait se passer.
Exactement.
Et qu'à un moment donné, il faut accepter les choses et justement se mettre dans la dynamique de se dire, bah voilà, ça devait se passer. C'est quoi la suite et où est le soleil après la tempête?
Exactement. je suis vraiment d'accord avec toi parce que si on reste pris dans « je suis pas d'accord, c'est pas ça que je voulais », mais là, c'est trop tard, c'est arrivé. Tu sais, les faits sont les faits. Fait que si tu restes pris là-dedans, ça t'enlève du pouvoir sur ce que tu vis aujourd'hui dans ton quotidien.
Ça.
Parce que si c'est arrivé, c'est ça qui avait arrivé.
Exactement, ouais. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Donc, évidemment, ton livre « T'es pas game ».
Yes. Même si vous êtes en France, c'était pas cap, ça fait. Mais non, mais pour vrai, tu dis que tu es en train de le lire, puis ça fait du sens, ça, que je pense que ça marche.
Ouais, j'ai commencé, mais en fait, j'avais pas la bande passante mentale pour le lire bien, mais je vais compte sur moi.
Génial, tu me donneras ton feedback après. Tu veux une recommandation d'un livre?
Ouais.
Je te dirais « Sois toi et change le monde » de Dane Heer. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Non.
Ça et Le moment présent de Eckhart Tolle. Pour vrai, Le moment présent d'Eckhart Tolle, puis c'est, tu sais, tu lis ça par petits morceaux, puis ça t'amène quasiment en transe. C'est une personne qui a un taux vibratoire énorme, tu sais, élevé, très élevé. Puis juste de lire son livre, tu peux le lire. Moi, j'ai des gens qui lisent en version audio. Ça, c'est encore, on dirait, encore plus facile parce que là, tu as juste à écouter, puis tu tombes en transe, tu fais tellement des prises de conscience, puis ça. Ça fait vraiment beaucoup de mise à jour par rapport à tes croyances et tout ça. Là. Je dirais ces deux livres-là.
Super, merci. En parlant de merci, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Merci à toi, premièrement, d'avoir accepté de me recevoir, peu reconnue canadienne sur ton podcast. Sinon, j'ai le goût de me dire merci à moi-même. Sinon, parce que pour vrai, je suis responsable de tout ce que je vis. Puis sinon, je dis quand même merci à mes parents parce que c'est quand même leurs deux demi-cellules qui fait que je suis là. Fait que ça, je peux pas. C'est ça l'effet, hein? Mais je suis vraiment juste reconnaissante de tout le monde que je croise. Là. Tu sais, j'ai des étudiantes extraordinaires, j'ai une équipe extraordinaire. C'est vraiment. J'ai un coach extraordinaire. Tu sais, c'est juste comme de l'abondance humaine, vraiment.
Un grand, grand merci, Marisol. Et puis, je mettrai tous les liens pour te suivre sur le blog pourquoipasmoi.co. Et s'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ta méthode pour pouvoir être formées, on les invite à te contacter. Enfin, en tout cas, à contacter les personnes qui travaillent avec toi pour que tu puisses te consacrer à l'écriture.
Exactement.
Merci Marisol.
Merci de m'avoir reçue.
Avec grand plaisir.
J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.